Bien. Avec votre permission, on ne va pas sacrifier au quart d'heure Poitevin, puis on va débuter cette 17e table ronde du groupe de réflexion nationale Créativité Territoire. Je vous souhaite la bienvenue à l'espace Mendès France, dont je vais vous parler en quelques secondes, parce que ça peut paraître étonnant qu'un centre de culture scientifique, où on pense qu'il y a tous les jours de la chimie, des mathématiques, de la physique, de l'astrophysique, de la biologie, il y en a, se préoccupe de ces territoires en termes de recherche, etc. Je vous dirai en deux mots le pourquoi du comment. Alors d'abord, je voulais deux petits clins d'œil. Vous êtes des adultes membres actifs de la société locale, puis je voulais vous signaler que cet après-midi, vous qui avez un certain âge, nous avons des petits de 3, 4 et 5 ans dans l'établissement, donc c'est un mélange de public qui, moi, me ravit toujours. Donc ça, c'est un premier clin d'œil. Deuxième clin d'œil, dans la salle, il y a beaucoup de services et d'élus d'une partie des territoires qui constituaient le Poitou autrefois, donc de Sèvres, Vendée, Vienne, puis Maine-et-Loire aussi. Donc voilà, c'est un clin d'œil historique et géographique. Alors merci pour votre présence. Tous les derniers vendredis de chaque mois, maintenant, c'est devenu quelque chose de familier. Il y a un atelier de discussion autour de la question de la créativité, de ses tenants, de ses ressorts, de ses aboutissants et de ses implications sur nos vies locales. Alors aujourd'hui, on va parler des centres-villes, des activités en centre-ville, du commerce, de la culture, des déplacements, des mobilités. Ce sont des débats qui sont extrêmement contemporains, qui sont extrêmement importants pour toutes et tous. Alors pourquoi est-ce que l'espace Mendès France est présent dans ces discussions et sur ces approches? D'abord, on a depuis très longtemps dans cet établissement souhaité mobiliser la communauté scientifique, au sens large du terme, dans une réflexion qui permettait, les cogniticiens, les gens des neurosciences, vous parlent du cerveau gauche et du cerveau droit, le cerveau rationnel, le cerveau intuitif, celui du débat et celui de la confrontation, bref, d'allier ces deux approches qui permettent de partir de ce que j'appelle des points fixes, ce que les membres de la communauté scientifique nous mettent à disposition, dont ils ont parlé entre eux, avec la vie telle que vous la vivez, telle que vous la menez et la vie sur laquelle vous souhaitez être acteur. Donc, à la tribune aujourd'hui, pour ne pas déroger à cette règle, vous aurez des universitaires, vous aurez des acteurs et des actrices de la recherche et développement et vous aurez des personnalités qui vont venir témoigner de ce qu'ils font dans ce champ de la créativité et en termes d'activité sur très concrètement des points de territoire qu'on appelle des centres-villes. Qu'on soit en milieu urbain, en métropole, en petite ville ou en milieu rural, il y a des points communs, il y a des différences qui tiennent compte du contexte. Et je pense que la question du témoignage est de plus en plus une question qui est posée pour permettre de revivifier la pensée, l'action des acteurs que vous êtes, quelle que soit la dimension de ce que vous faites. Donc l'espace Mendès France, dans ce cadre-là, poursuit un travail quotidien. Alors il se trouve que moi j'ai une histoire un peu particulière puisque j'ai été personnel territorial, j'ai été élu, j'ai été maire, vice-président d'une agglomération et ça me permet aussi d'être à l'écoute d'une sensibilité à travers les territoires, d'une sensibilité des élus qui, quelle que soit leur fonction, sont aux manettes, sont dans le débat, parfois sont démunis. Donc cette maison essaie à travers ces ateliers, ces rencontres, de mettre en place des éléments d'interconnexion en décloisonnant la façon de penser. Et puis je finirai en disant, puisqu'on a quelques jours de notre conseil d'administration, l'espace Mendès France a battu sur la dernière saison tous ses records d'affluence. Et ça vient essentiellement, si on regarde ce qui s'est passé au niveau des publics, ça vient essentiellement de la diversité qu'on a choisi de mettre en scène en direction de ces publics. Hein, titre indicatif, Mendès France sera pas loin de 200 000 personnes sur l'année 2015. Et un gros, gros travail sur Poitiers, son agglomération et en milieu rural. Donc, vous êtes représentant de toute cette diversité sociale, culturelle, politique, technique de notre région. Donc, je vais laisser la place au débat. Je vais demander au maître d'œuvre, Jackie Deniol, de vous rappeler en quelques mots la ligne directrice, la ligne éditoriale de ces tables rondes. Puis on va faire venir nos premiers intervenants. Dernier point, quand vous prendrez la parole, n'hésitez pas à dire qui vous êtes, parce que tout ça est enregistré. Puis je racontais à table tout à l'heure à quel point j'étais surpris du nombre de téléchargements de nos conférences. Ça devient industriel. La conférence de Cédric Villani, pas loin de 20 000 téléchargements. Et finalement, je me rends compte que même à distance, on arrive à avoir des contributions hautes, puisqu'après, les gens nous écrivent. Donc, il y a un travail collectif qui est en train de se faire. Donc, j'espère que le thème que vous allez animer aujourd'hui va contribuer, au-delà de Poitiers et de sa région, à faire avancer la question. Jackie, je vais te laisser la parole en te remerciant d'avoir organisé ça. Et je remercie les intervenants qui viennent, pour certains d'entre eux, de loin. Bon après-midi à toutes et à tous. Viens, Jackie. Merci.
Merci Didier. Bonjour à tous et à toutes. Donc on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais appeler tout d'abord Pascal Madry et Nathalie Lemarchand à venir nous rejoindre ici. Ce deux intervenants que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un cycle à la Cité de l'architecture et qui m'ont paru très intéressants dans leur approche réciproque pour éclairer la thématique qui est la nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire les centres-villes. Et comme l'a dit Didier, vous avez le programme de la journée d'aujourd'hui et derrière, vous avez le programme à venir. Notamment, j'attire votre attention sur la prochaine qui sera sur le tourisme. Et ça sera dans le cadre de la foire exposition, puisqu'il y aura une dimension touristique à la foire. Et donc, ça ne sera pas ici exceptionnellement. Je vous le dis pour que vous ne vous trompiez pas. Donc, je vais peut-être laisser la parole tout d'abord à Pascal Madry, directeur de Procos, le soin de se présenter, puis d'intervenir dans un premier temps. Et ensuite, Nathalie Lemarchand.
Merci tout d'abord à l'EMF de cette invitation. Alors oui, directeur de Procos, mais ceci étant dit, aujourd'hui je vais intervenir plutôt avec ma casquette de directeur de l'Institut pour la ville et le commerce, deux mots de présentation de cet institut avant de vous projeter quelques diapos. C'est une association qui fait un peu le même travail que l'EMF finalement, mais sur un périmètre plus restreint, les questions de commerce et de ville. Donc nous réunissons des commerçants, des enseignes, mais aussi des commerçants indépendants, des promoteurs spécialisés dans l'immobilier de commerce, ceux qui font les murs qui accueillent le commerce. Et puis nous accueillons également des collectivités, donc des maires, les élus à l'urbanisme, au développement économique, quelques chercheurs, et tous ensemble, nous essayons de conduire une réflexion prospective sur ce que serait le commerce de demain dans la ville de demain. Donc on s'intéresse sur plein de thèmes comme le vieillissement de la population et ses impacts sur la géographie du commerce, sur Internet, bien évidemment, etc., etc. Donc, ce que je vais vous présenter là en 10 petites minutes, c'est un rapide panorama en fait des forces qui ont structuré notre paysage commercial jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, je vais le faire en 3 diapos, ça va être vraiment très court, mais en même temps, je pense qu'il y aura l'essentiel. Et ce que je voudrais vous présenter ensuite, c'est finalement caractériser ce qui me semble être une véritable crise à laquelle est aujourd'hui confronté le commerce, mais aussi nos villes, une crise de ce développement du commerce tel qu'on l'a connu durant ces 50 dernières années. Et je pense que la manière dont on a fait le commerce, la manière dont on l'a intégré dans la ville jusqu'à présent, va devoir être radicalement changée. Si l'on ne veut pas que les villes s'affaiblissent, que le commerce s'affaiblisse. Et évidemment, pour argumenter tout ça, je vous présenterai quelques chiffres de l'évolution sur l'évolution de la vacance commerciale qui, à mon sens, me semble être un très bon marqueur de cette crise, de ces mutations très importantes que rencontrent la ville et le commerce. Alors, je crois que je serai invité par ailleurs à parler un tout petit peu encore à la fin de notre après-midi. Et donc, je vais garder le suspense sur les solutions. C'est à la fin que j'évoquerai les. Voilà. Comme ça, on est à peu près sûr que tout le monde reste. C'est bon?
Absolument.
D'accord. On s'est un peu coordonnés, hein. Voilà. Donc, une dizaine de diapos, beaucoup d'images. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de texte pour mettre tout ça en perspective. Et alors, certains connaissent déjà un petit peu mon récit. Je reconnais dans le public des personnes qui finissent par être presque abonnées à ces graphiques. Trois premières diapos pour vous montrer, encore une fois, quelles ont été les grandes forces qui ont structuré notre paysage commercial en France. Il y a un mot pour résumer cela, c'est concentration. Concentration. Et on va le décliner de trois manières. première manière de décliner ce terme, concentration de notre commerce en termes d'outils de travail, si vous voulez. Et je parle là de la boutique. Ce graphique, cette courbe, vous montre l'évolution du nombre de commerces en France depuis l'ouverture du Bon Marché, ce grand magasin dans le centre de Paris, qui pour moi constitue finalement la première forme de commerce moderne, de notre époque moderne, jusqu'à aujourd'hui. Donc. Et vous voyez ce profil de courbe, jusque dans les années 30, des boutiques qui pullulent, qui se développent, qui se développent, qui se développent. Et puis cette courbe qui s'infléchit à partir de cette période et avec une diminution qui tendancielle et qui ne s'est jamais retournée. Alors, si on résume ce graphique, c'est très simple. Hein, nous avons besoin de toujours moins de commerce pour satisfaire toujours plus de besoins de consommation. Parce que là, nous étions 40 millions de Français. Là, plutôt 65. Et dans le même temps, on a presque deux fois moins de commerce pour répondre aux besoins de cette population qui a augmenté. Donc il ne faut jamais perdre de vue cela, c'est que nous avons un secteur extrêmement efficace d'un point de vue économique, extrêmement productif, puisqu'avec moins, il fait plus. Donc quand on fait une politique de développement commercial sur un territoire, vous voyez, à peu près, que l'on est forcément en contradiction avec l'évolution macro du secteur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, ça, c'est une première interprétation. L'autre point important, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici pour que cette courbe se retourne ? On dit toujours qu'en France, les boutiques ont commencé à disparaître avec les premiers hypermarchés, avec les premières moyennes surfaces, bref, avec la grande distribution. La grande distribution en France, elle arrive dans les années 60, avec le premier hypermarché à Sainte-Geneviève-des-Bois, 63, les premiers super un peu avant, dans les années 50, et puis les grandes chaînes qu'on peut voir ici, par exemple à Chasse-Neuil, ou d'ailleurs essentiellement à Chasse-Neuil, mais il y en a aussi dans le sud de l'agglo. Eh bien, elle, c'est pareil, les années 60, 70, 80. Ici, il se passe autre chose qui est fondamentale, dans son impact sur la géographie du commerce. C'est un phénomène démographique, c'est que pour la première fois, on compte ici plus de Français urbains que de Français ruraux. C'est l'exode rural, l'achèvement de l'exode rural, qui a conduit à quoi ? Qui a conduit à ce que les Français vivent un peu plus rapprochés les uns des autres dans et autour des villes. Et à ce peuplement plus concentré, eh bien le commerce n'a fait que s'adapter en se concentrant lui-même en venant se rapprocher des villes. Et évidemment, dans les centres-bourgs, et je crois qu'il y a beaucoup d'élus de cette catégorie de villes, dans les centres-bourgs, là où la population a décru, le commerce a aussi considérablement diminué. Et c'est d'abord ce phénomène démographique qui a conduit à ce grand retournement. Alors, je n'aurai pas le temps de le développer, mais quand on me parle aujourd'hui d'Internet, j'ai tendance à remettre en perspective ce phénomène-là avec les phénomènes démographiques qui, dans le même temps, bousculent le peuplement de nos villes. On se parle beaucoup d'étalement urbain, d'émiettement urbain. Je pense que ces phénomènes-là sont beaucoup plus structurants, voire déstructurants, selon la façon dont on voit les choses, dans l'organisation du commerce qu'Internet. Mais on pourra y revenir peut-être à l'occasion du débat. Donc, premier point, et j'ai été un peu long, je vais être plus rapide sur la suite. Concentration du commerce par son outil de travail, on a besoin de moins en moins de boutiques. Concentré également en capital. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement que le commerce est de plus en plus l'affaire de réseaux. Donc, Monoprix, Conforama, Decathlon, etc. etc. C'est aujourd'hui, ces chaînes, c'est 85% du chiffre d'affaires de l'activité du commerce en France. Et les commerçants indépendants isolés, c'est le boulanger de quartier, mais aussi de centre-ville, c'est le magasin de textile qui n'est rattaché à aucun fournisseur par un contrat de distribution, etc. etc. Ce n'est plus que 16% des ventes du commerce en France. Quand vous promenez dans un centre-ville, vous voyez beaucoup d'enseignes sur les rues numéro 1, par exemple la rue Gambetta à Poitiers. Dès que vous sortez un peu de ces rues, vous allez voir beaucoup d'indépendants, beaucoup. Ils sont en fait encore très nombreux en nombre d'établissements, mais en poids économique, ce n'est plus que 16% de part de marché. Alors, en dynamique, hein, d'année en année, qu'est-ce qui se passe? Les chaînes grignotent encore des parts de marché sur ces indépendants. Et dernier point, concentration, on l'a vu, de l'outil de travail, du capital. Dernier point, concentration spatiale. On est dans la géographie. Et qu'est-ce que je veux dire par ce terme-là? Nathalie me le reprocherait parce qu'il n'est pas si précis que ça, en fait. Mais qu'est-ce que je veux dire? L'essentiel, c'est que où consomme-t-on, nous, maintenant, les Français? Eh bien, essentiellement, en périphérie. Donc, 70% de la dépense de consommation des habitants de Poitiers, elle se fait où? Elle se fait à Chasseneuil, elle se fait à Poitiers, Porte Sud, elle se fait à Grand Large, etc. Le centre-ville, dans le meilleur des cas, c'est à peu près 17% de parts de marché. Si vous allez à Châlons en Champagne, vous serez plutôt à 12. Si vous allez à Strasbourg, vous serez encore à 25. Mais vous n'avez pas un centre-ville qui pèse plus qu'un quart, qui capte plus d'un quart des dépenses des habitants d'une grande agglo. Et puis ce commerce de proximité dont on vante tant le retour, eh bien lui, il stagne à 13% depuis une quinzaine d'années. Et donc là encore, en dynamique, qu'est-ce qui se passe? La périphérie continue de grignoter sur le centre-ville. Je ne porte pas de jugement de valeur dessus, hein, c'est simplement dynamique. La périphérie continue de gagner des parts de marché. Il y a ces statistiques, on les établit depuis une quinzaine d'années. Donc au milieu des années 2000, on était à peu près à 63% pour la périphérie. Donc en à peine 15 ans, la périphérie a gagné encore 7% de parts de marché. Ça va très vite. Hein. Vous ouvrez un alinéa, par exemple. Plus. Pouf. Ça, c'est pour rigoler un peu. Alors, la question, c'est est-ce que notre commerce va continuer de se concentrer? Est-ce que demain, on aura encore moins de boutiques? Est-ce que demain, on aura affaire encore à toujours plus des chaînes? Et est-ce que demain, on consommera toujours plus en périphérie? Alors, mon avis personnel, c'est que non. Et pour une raison simple, c'est que ce régime de croissance, ce mode de développement de notre commerce moderne, à mon avis, s'essouffle et arrive à la limite de son modèle. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien, ces deux courbes qui vous montrent, cette fois sur les années récentes, comment la consommation des Français a progressé, bon an, mal an, malgré tout quand même, de 1 ou 2% par an, et comment, dans le même temps, les surfaces commerciales, elles, ont progressé. Et vous voyez cela avec cette courbe rouge. Et vous voyez dans le même temps ce découplage croissant entre ce que l'on produit comme surface commerciale en France et ce que la consommation, dans le même temps, est capable d'absorber. On crée toujours plus de surfaces et des surfaces que, malheureusement, la consommation est de moins en moins capable d'absorber. Ça s'appelle du suréquipement, de la surproduction, de la surcapacité, etc. etc. Alors, j'en ai pas fini. D'où vient finalement cette espèce de fuite en avant, ce découplage entre la consommation et le parc de surface commerciale? Si on veut trouver les déterminants de ce curieux phénomène, en fait, il faut rentrer dans le détail du jeu d'acteurs qui est à l'origine de tout cela. Ça nous oblige à aller voir du côté des distributeurs, mais aussi des promoteurs, et ça nous oblige encore à aller voir du côté des collectivités. Et mon analyse est de dire que ces trois acteurs qui sont les principaux acteurs mobilisés dans cette filière de l'immobilier commercial, eh bien aujourd'hui, ils sont totalement indisciplinés. Alors vous allez voir pourquoi, et j'en finirai par là. Du côté des commerçants, des distributeurs, sur ces 15 dernières années, il s'est passé une curieuse chose. C'est que d'abord, et peut-être qu'il y a des commerçants parmi nous, c'est que d'abord, les prix de leurs locaux, les prix les loyers de leur commerce ont considérablement augmenté. Et vous le voyez avec cette courbe qui représente l'indice auquel sont indexés les loyers commerciaux, avec lequel les loyers commerciaux augmentent en France. En gros, un commerçant qui payait 10 000 euros de loyer dans les années 2000, aujourd'hui est rendu à 15 000 euros par an, 50% d'augmentation. si vous êtes peut-être locataire de votre logement, je ne pense pas que vous ayez connu des augmentations aussi importantes. Donc il coûte très cher d'occuper des locaux pour commercer aujourd'hui. En tout cas, les prix ont considérablement augmenté durant ces 15 dernières années. Dans le même temps, regardons les chiffres d'affaires et donc ce que produisaient, c'est ce qu'on produit ces magasins sur la même période. Eh bien, ces chiffres d'affaires, alors là on les a rapportés à la surface, les rendements finalement des boutiques ont diminué. Et ça, quels que soient les formats, quels que soient les secteurs d'activité. Vous êtes exploitant d'un beau Leclerc dans le sud de Poitiers. Vous aviez des rendements de 11 000 mètres carrés. C'est-à-dire qu'un mètre carré de Leclerc vous apportait chaque année 11 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, 15 ans plus tard, ce n'est plus 11, mais c'est 9 000. 30% de diminution des rendements. Et puis vous prenez tous les secteurs d'activité, on est à peu près dans ces tendances-là. Et si on résume très simplement ces deux diapos, il coûte de plus en plus cher de vendre de moins en moins. Alors, quand vous êtes un indépendant, cette situation-là, elle n'est pas tenable. Vous ne pouvez pas avoir des chiffres qui baissent et des conditions d'exploitation qui, dans le même temps, augmentent. Il y a un moment où, tout simplement, votre activité n'est plus rentable. Pourquoi ça tient malgré tout en France ? Et particulièrement en France, d'ailleurs, par rapport à d'autres pays européens ? Parce que notre commerce est concentré. Qu'il est l'affaire de réseaux, de plus en plus de réseaux. Et un réseau, son métier, ce n'est pas seulement de vendre, ce n'est pas seulement d'exploiter des boutiques qui se cognent cette difficulté-là. Un réseau, c'est aussi une entreprise qui va gérer de la logistique. Et puis, c'est une entreprise qui va aussi gérer une politique d'achat et qui va donc avoir qui va entretenir des négociations avec des fournisseurs. Et un réseau, quand il voit ses boutiques en difficulté, qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps ? Alors, il va essayer de négocier ses loyers. C'est difficile aujourd'hui en France. Donc, il va jouer sur la logistique. Donc, il va essayer de faire des économies dans la logistique qui vont lui permettre de compenser ce qui est perdu dans la boutique. Et puis, il va aussi travailler dans ses relations avec les fournisseurs. Mais alors, pour gagner un peu d'argent, pour obtenir des gains dans la logistique et pour obtenir des gains aussi dans sa politique d'achat, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut des volumes et il lui faut un pouvoir de négociation vis-à-vis de ses fournisseurs. Comment va-t-il obtenir ces deux éléments-là ? En étendant son parc de magasins. J'augmente ma surface de magasin. OK, c'est pas rentable, c'est de moins en moins rentable. Mais ce n'est pas grave, du moins jusqu'à un certain temps, parce que qu'est-ce que je vais faire ? Je vais compenser ce que j'ai perdu dans mes magasins par les gains que je vais pouvoir réaliser dans ma logistique en rationalisant mes camions, etc., mes plateformes. Regardez Orchestra qui avait des plateformes régionales partout en France pour faire le fait de tout ramener en une seule plateforme lui a permis de faire 20% d'économie en amont des coûts de commercialisation. Donc, plus de magasins pour rationaliser la logistique, mais aussi pour pouvoir peser davantage sur les fournisseurs et négocier des rabais sur les coûts d'achat. Et donc, notre commerce moderne, qui depuis une quinzaine d'années était confronté à une crise structurelle, c'est-à-dire à un régime qui s'épuise, qu'est-ce qu'il a fait pour survivre dans ces conditions difficiles ? Il a accéléré les ouvertures. Il a accéléré les ouvertures de commerce. Et c'est comme ça que l'on peut s'expliquer, cette bizarrerie qui montre qu'on produit plus de surface que ce que la consommation est capable d'absorber. Alors, pour un promoteur, c'est génial, ça. C'est génial, parce que le promoteur qui réalise des surfaces commerciales, que ce soit un centre commercial, que ce soit un lotissement de boîtes, comme on peut en voir sur le plateau de Chasseneuil maintenant, qui viennent d'ouvrir, que ce soit un promoteur qui investit en centre-ville, en rez-de-chaussée de centre-ville, c'est génial, parce que quand la consommation va, ce commerce concentré a besoin évidemment de nouveaux locaux, et puis quand la consommation ne va pas, de toute façon, ces réseaux sont amenés à poursuivre leur développement et à ouvrir finalement encore davantage. Et donc le marché de l'immobilier de commerce est un marché totalement acyclique, c'est-à-dire détaché de la conjoncture, détaché de la consommation, parce que ce qui le nourrit, ce n'est pas le client, ce n'est pas le consommateur, c'est le distributeur. Dernier acteur, et j'espère ne pas avoir débordé sur mon temps, mais j'arrive au terme de ce premier exposé, les collectivités. Les collectivités, soit elles sont naïves, soit elles sont opportunistes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que quand un maire voit arriver sur son territoire un distributeur et un promoteur qui leur disent « Voilà, moi j'ai un super projet que je voudrais développer sur votre territoire, c'est une moyenne surface de 1000 mètres carrés qui va permettre de répondre aux besoins de consommation. » Le maire a deux attitudes. C'est superbe, je vais avoir de l'activité sur mon territoire, je vais avoir de nouveaux emplois. En général, d'ailleurs, il communique d'abord sur cet aspect-là. Et puis, par ailleurs, je vais avoir telle enseigne sur mon territoire. Et puis, peut-être que derrière, il y aura aussi quelques recettes fiscales. Enfin, je ne vois que des avantages. Et puis, en plus, il y a un promoteur qui veut faire. Donc, le marché valide le fait que sur mon territoire, il y a un potentiel. Et il valide le fait que mon territoire est attractif. Et pourquoi est-ce que je refuserais ce projet ? Et effectivement, pourquoi le refuser ? Sauf que l'acceptation de ces petits projets, quand on agrège tout ça, quand on regarde ça à un niveau macroéconomique, ça conduit eh bien, à ce phénomène de surcapacité de l'appareil commercial sur les territoires. Alors, avant de vous montrer les conséquences de tout ça, mais je pense que vous les connaissez déjà, simplement deux mots encore sur la façon dont les maires ont traduit ce développement dans leurs documents de planification commerciale, dans les SCOT et en particulier dans les DAC. De deux manières, en fait. Parce que quand je dis que les maires sont naïfs ou opportunistes, c'est que, dans le même temps, eux sont confrontés à une autre difficulté, c'est la compétition territoriale. Et les territoires ont besoin de se positionner par rapport aux autres. Donc Poitiers, c'est le grand Poitiers, hein, tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle intercommunalité qui s'étend. J'ai pris ça là-haut, mais on voit ça dans tous les territoires. Toutes les agglomérations sont aujourd'hui dans une compétition et cherchent à attirer à elles, évidemment, un potentiel de développement, de nouvelles richesses qui puissent profiter au territoire. Commercialement, ça n'est pas neutre, parce que ce type d'ambition-là, comment ça s'est traduit en général depuis ces 15 dernières années dans les ambitions des territoires ? Alors, à travers deux stratégies. Une première concernant les centres-villes. Toute agglomération qui se constitue a en général un complexe de centres-villes. Je veux dire par là que beaucoup de villes se sont dit, maintenant que l'on a un territoire large, avec des ambitions de rayonnement fortes, on s'aperçoit que notre centre-ville historique, il est un peu étriqué et il serait bon de lui donner un peu plus d'épaisseur. Et vous avez énormément de collectivités qui, à travers ce discours, ont fait venir dans leur centre-ville, d'ailleurs en général plutôt en bord du centre-ville, de nouveaux équipements pour pouvoir étoffer leur centre historique. On est passé de cette manière-là, d'une logique de centre-ville à une logique de cœur d'agglomération. Il fallait un nouvel organe qui batte plus fort, plus vite pour soutenir la vaillance de ces nouveaux territoires. Donc Angers, c'est Fleur d'Eau qui est venue au bord du centre historique. À Rouen, c'est les Docks 76. Rouen, on est chez Nathalie, que vous allez entendre tout à l'heure. Là, on n'est pas très loin de Poitiers, on est à Tours, l'heure tranquille. Je ne sais pas si vous avez visité ce centre, il porte très bien son nom. Pour faire ses courses, c'est très, très agréable. Pas de file d'attente. Le ruban bleu à Dunkerque. Porte Jeune à Mulhouse. Je pourrais vous en montrer 80. C'est le nombre de centres qui ont ouvert depuis les années 2000. Cordeliers 2001 à Poitiers, par exemple. Sur les 80 centres qui ont ouvert, deux ont atteint leurs objectifs initiaux. Seulement deux. Alors le premier est à Saint-Germain-en-Laye. C'est une commune, Boulogne-Billancourt. Mais c'est la même sociologie. C'est une commune très riche de la banlieue parisienne. Et le second est à Aix. Je ne vous fais pas le tableau sociologique de ces communes. Partout ailleurs, on a des équipements qui n'ont jamais atteint leurs objectifs. Pourquoi ? Parce que ce sont d'abord des projets politiques avant d'être des projets économiques. Le second versant de cette ambition territoriale, c'est la périphérie. Le discours sur la périphérie. Maintenant que nous sommes un territoire attractif, ou en tout cas que nous avons des ambitions de rayonnement large, il faut aussi que notre équipement de périphérie soit à la hauteur. Et alors, ça se traduit par ce que j'appelle, moi, l'effet Gore-Tex. Gore-Tex, c'est au sens où il faut que l'on fasse venir les clients extérieurs à notre territoire pour que leur consommation nous profite, donc faire venir des revenus extérieurs. Et donc, pour ça, ça justifie des équipements plus gros, plus forts, des lotissements qui s'étendent. Là, on est, par exemple, à Troyes. Ici, on est à Metz. Mais regardez tous les projets récents qui ont ouvert à Poitiers. En fait, dans toutes les agglomérations, vous avez ces logiques de renforcement du poids de cette périphérie pour essayer de gagner des clients extérieurs. Alors, Gore-Tex, vous savez, on laisse rentrer l'humidité d'un côté, mais pas de l'autre. Donc, l'autre effet de la membrane, c'est ayons ces équipements forts pour éviter que nos clients aillent dans les agglos voisines. Pas question pour quelqu'un de Poitiers d'aller à Tours, à Angoulême, etc. Sauf que, comme toutes les agglos sont dans cette logique, on finit par arriver... Alors, je vous parle des grandes villes, hein, mais ça, vous le l'avez aussi à l'échelle des centres-bourgs. Tiens, moi, je vais ouvrir mon Leclerc, comme ça, j'aurai l'effet Gore-Tex. Ah oui, mais mince, à côté, il a ouvert un Intermarché. Bon. Ah, puis alors là-bas, c'est un U. Enfin, vous retrouvez ça à chaque taille, à chaque échelle de ville. Le bilan de tout ça, c'est quoi? C'est que les zones d'influence des villes ne gagnent pas. C'est un jeu à somme nulle. Et simplement, tous les territoires se retrouvent avec une offre renforcée, alors que dans le même temps, le client, lui, n'a pas bougé. Donc vous voyez la responsabilité des distributeurs, vous voyez la responsabilité des promoteurs, mais quelque part aussi des collectivités. Et donc nous avons une chaîne qui, de bout en bout, aujourd'hui, est incapable de se discipliner pour réguler ce phénomène de suroffre. Alors ça tient un certain temps, et puis il y a un moment où, évidemment, les territoires craquent. Et alors ils craquent comment? Bah, par ce phénomène qui, je pense, vous inquiète beaucoup, parce que vous devez le constater dans beaucoup de vos territoires, la vacance. La vacance commerciale. Oui, alors ça, pardon, c'est une illustration qui vous montre ce que les collectivités ont autorisé comme mètre carré depuis qu'existe la loi Royer. Vous savez, c'est le régime d'urbanisme commercial qui impose que pour une surface dépassant un certain seuil de mètre carré, il lui faut, en plus d'un permis de construire, une autorisation d'exploitation. Jusque dans les années 2000, on est à peu près à 2 millions de mètres carrés autorisés. La conso est à 3-4% par an. À partir des 2000, la conso diminue de moitié. Hein, on est plutôt à des augmentations de 1-2% par an. Et dans le même temps, les élus n'ont jamais autant autorisé de surface que dans cette période d'atonie de la consommation. On voit bien là qu'on est sur des ambitions politiques qui se déphasent, qui se découplent des potentiels du marché. Et donc ça conduit à quoi? Mais encore une fois, les élus ne sont pas seuls responsables. Ça conduit à quoi? Ça conduit à une vacance, ici je vous la donne dans les centres-villes, qui progresse en grosso modo de 1% par an maintenant. Donc un élu qui commence son mandat, 5 ans avec un taux de vacance à 9, 5 ans après il est à 14-15. Une vacance qui progresse dans les centres-villes, mais attention, si vous regardez ce qui se passe aussi en périphérie, vous avez le même phénomène. En tout cas, pas dans tous les territoires, mais dans bon nombre de territoires, les difficultés que vous commencez à lire dans vos centres-villes ne sont que le marqueur d'un affaiblissement plus général de l'activité commerciale sur l'ensemble du territoire. Nos adhérents chez Procos ont l'obligation de nous donner leur chiffre d'affaires quand ils adhèrent à cette association. Et si je prends un exemple local, quand Porte Sud a ouvert, s'est transféré, mais avec une belle extension, on a vu les chiffres d'affaires des enseignes sur toute l'agglo diminuer de 10% 6 mois après, en centre-ville comme en périphérie. Je prends ce cas parce qu'on est à Poitiers, mais c'est la même chose partout en France. Et donc attention, quand vous mesurez un taux de vacances élevé en centre-ville, ce n'est bien souvent que l'arbre qui cache la forêt, et vous avez le même problème dans votre périphérie. Comme les réseaux ils sont plus importants, la vacance est plus faible parce qu'ils jouent de leur effet de logistique, etc. Mais vous avez un affaiblissement de la performance économique. Voilà. Donc, dernière image pour illustrer ça. Béziers, qui est la ville la plus touchée par la vacance commerciale. Béziers en 2001, la vacance en rouge sur le pourtour de l'hypercentre. Ça, c'est typiquement de la vacance conjoncturelle qui est amenée à disparaître. Rien d'inquiétant. Et puis 10 ans après, c'est tout le circuit qui est touché. Et d'année en année, là, j'ai mis que 2 années. Vous voyez, 2012, 2013, 2014, vous rajoutez un peu de rouge par ici. Et 2015, on est à 25% de taux de vacance. Un commerce sur 4 a fermé. Voilà, je maintiens le suspense ici. Que faire face à ce qui est, à mon sens, une vraie crise structurelle et qui doit nous amener à repenser le commerce, en tout cas plus de la façon dont on l'a pensé dans une logique de développement durant ces 50 dernières années, ben rendez-vous à la fin de cet après-midi.
Merci, Pascal Madry. À moins qu'il y ait des demandes de précision très claires, mais bon, on n'engage pas de débat, c'est une précision sur l'intervention.
Je réponds que par oui ou non.
Voilà. Et vous présentez en même temps, puisqu'on enregistre tout le débat.
Jean-Frédéric Teplitsky, famille rurale. Je viens de la ruralité de l'île Jourdain, donc Sud-Vienne. La question que vous n'avez pas abordée, c'est le problème du financement.
De quel point de vue ? Du distributeur, du promoteur de... Alors, je pense qu'on va ouvrir un long débat si je réponds à cette question-là, mais je vous encourage à regarder ce qui se passe du côté des marchés financiers, de ces sociétés de promotion qui sont toutes passées au régime des SIC pour pouvoir lever des financements plus rapidement typiquement sur les marchés financiers. Regardez tout ce qui s'est passé avec la financiarisation de ce secteur aussi, je pense que vous aurez la réponse. Je ne l'ai pas abordé, je n'avais que 10 minutes et en plus je crois les avoir largement dépassées. Mais c'est le privilège du premier intervenant.
Vous pourriez y répondre tout à l'heure. Pas d'autres demandes de précision, donc je vous propose que Nathalie Lemarchand donc, intervienne. Alors on avait intitulé « Commerce distractif », mais je lui laisse le soin de faire sa présentation.
Voilà, oui. Donc, donc Nathalie Lemarchand, comme l'a dit Jacques Daniel. Donc je suis géographe, comme je crois que c'est aussi indiqué, et je travaille à l'université de Paris 8, donc où j'enseigne depuis quelques années. Mais je travaille sur le commerce de détail depuis très longtemps, depuis ma maîtrise à ce moment-là. Donc j'ai commencé à travailler sur cette question. En fait, avant de travailler sur le commerce distractif, j'ai commencé à travailler, comme on le faisait très souvent à ce moment-là, sur la localisation du commerce, puisque de même que Pascal a dit quelques mots sur l'Institut pour la ville et le commerce, moi je vais situer aussi mes travaux dans un groupe de recherche qui est un groupe sur un réseau de chercheurs de géographie du commerce. Donc c'est une commission qui existe depuis plus de 40 ans et qui travaille donc sur l'évolution de la géographie du commerce de détail. Et on est passé d'un travail qui était sur la localisation, et d'autant qu'on a pris cette commission a pris son essor, on va dire, à peu près en même temps que la grande surface. Et puis, donc, on a travaillé de la localisation aux espaces commerçants eux-mêmes et à la transformation et à la mutation des espaces commerçants. Et ma réflexion a un peu accompagné ce mouvement, même si ça ne fait pas 40 ans que je suis dans cette commission. Elle a existé avant que je ne commence mes travaux dessus. Mais donc en suivant les évolutions et les transformations de l'activité commerciale de détail dans les espaces urbains et en élargissant aussi mes terrains d'investigation, puisqu'en géographie on a souvent une thématique et des terrains d'investigation, j'ai commencé à travailler sur les espaces sur le territoire français, donc sur l'agglomération de Rouen comme l'a évoqué Pascal et Delboeuf, et puis j'ai eu l'occasion par mes activités professionnelles de me rendre parallèlement à deux endroits qui étaient en train de connaître des transformations l'une plus rapidement que l'autre. En Russie, je me suis rendue en Russie, plus particulièrement à Moscou, puis à Barnaoul, sur une échelle de 8 ans de temps, entre 1994 et 2002, donc à peu près au moment de... après la fin de l'Union soviétique et où justement se lançait en quelque sorte à corps perdu la Russie dans une activité économique capitaliste. Et donc ça se voyait, cette transformation se voyait très clairement dans l'activité commerciale, puisqu'on on passait d'une activité planifiée, d'un commerce d'État. Donc j'ai eu l'occasion de me rendre dans les commerces d'État et c'était assez impressionnant pour une occidentale comme moi de France, donc de voir ces vitrines des magasins d'État qui étaient en fait dans les années 94 quand j'y suis allée, des vitrines qui étaient occupées par du papier crépon, donc en forme de poisson quand c'était une poissonnerie, en forme de poulet quand c'était une boucherie par exemple, et puis par ailleurs il y avait des commerces d'État qui alors eux étaient fabuleux, donc effectivement bien remplis avec des bonbons, des pâtisseries, etc. Mais donc avec ce système particulier du choix du ticket qu'il fallait payer avant de pouvoir aller récupérer sa marchandise. Bref, c'était ce commerce d'État qui disparaissait au profit du commerce, donc avec la carte bancaire, enfin bon. Un commerce que j'appellerais pas encore distractif, hein, même s'il y avait une accélération qui se produisait, mais qui renvoyait quand même cette société, qui était par bien des égards une société déjà moderne, à une appétence pour la consommation, pour la fréquentation du commerce. Donc, et le goût en était un exemple aussi, hein, puisque j'ai vu le goût se transformer, donc passer de ce grand magasin donc, de composé de cellules assez uniformes, homogènes et banales, donc, à l'installation d'Yves Rocher, à l'installation des galeries, à l'installation donc, qui a amené aussi une certaine distraction. Donc il y avait là de la rêverie avec la consommation, de la flânerie, l'idée d'entrer dans un nouveau monde. Et puis parallèlement, donc, je vous disais, j'allais aussi sur un autre terrain qui était celui du Canada, l'Amérique du Nord, les États-Unis, l'Amérique du Nord, oui, donc Canada, États-Unis. Et là, donc, j'avais devant moi une autre forme de commerce qui se développait. Donc, je me suis rendue à West Edmonton Mall, qui est le premier grand centre commercial qu'on va qualifier par exemple de ludéo-commercial, hein, ludique et commercial, qui abrite une piscine à vagues, qui abrite une patinoire suffisamment grande pour accueillir les matchs de la ligue de hockey, qui abrite donc un mini-golf couvert le plus grand du monde. Bref, on avait là, alors je vous parle d'activités ludiques, et à côté de ça, on avait des magasins sur plusieurs étages qui étaient organisés dans ce que j'appelle un theming et un façading, c'est-à-dire que les façades donc, étaient pour produire des espaces, des paysages. Donc on reproduisait des paysages, donc c'est un peu Las Vegas, hein. On a souvent parlé de Las Vegas, donc avec la Tour Eiffel, avec des quartiers italiens. Ben là, c'était cette idée du theming, donc on reproduisait des places donc par les façades. Donc vous pouviez avoir l'impression de flâner dans un quartier européen. Vous étiez donc à Edmonton, donc à l'ouest du Canada, dans une province donc qui est occupée par deux villes importantes, Edmonton et Calgary. Puis à côté de ça, il y a les Rocheuses. Puis il n'y a rien d'autre. Il y avait à peu près 2 millions d'habitants, tout compris, hein, donc avec surtout Edmonton. Et puis vous pouviez avoir cette impression-là. Donc là aussi, il y avait un autre d'autres phénomènes qui se produisaient sous mes yeux, qui me conduisaient à réfléchir à de nouvelles formes de commerce. Et puis aussi, une autre expérience, donc toujours au Canada, là je me rendais à l'île du Prince-Édouard, qui est la plus petite province du Canada, 220 km sur 60. Et c'est une province, au même titre que l'Ontario, qui rassemble 12 millions d'habitants, 60 000 habitants. Et donc l'île du Prince-Édouard, elle a deux activités économiques, la production agricole, surtout de pommes de terre, et puis le tourisme. Et ce tourisme, elle s'appuie donc sur quelques sites, si on peut dire. Donc elle a des plages, elle a un beau sable rouge, et puis elle s'appuie, je dirais, sur la mise en valeur de produits qu'elle considère comme des produits culturels et des produits aussi naturels, puisque sa pomme de terre, par exemple, elle en fait un produit touristique. Donc vous pouvez trouver dans les magasins de souvenirs des petites pommes de terre de l'île du Prince-Édouard. Et puis elle a un personnage, donc Anne of Green Gables, qu'elle met aussi en valeur. Et comment elle le fait ? Bon, elle s'appuie sur un certain nombre d'éléments, de marqueurs, et elle s'appuie aussi beaucoup sur les magasins de souvenirs. Et donc là, le magasin de souvenirs, il est à la fois un lieu de vente des produits de la région et un lieu d'animation, puisque ces magasins de souvenirs, ils sont omniprésents dans tous les petits brochures touristiques dans tous les centres d'information touristique, puisqu'au Canada, il y a énormément de centres d'information touristique qui sont l'équivalent des offices de tourisme. Et aujourd'hui, en France, dans les offices de tourisme, on trouve la même chose. On trouve la vente, donc la mise en vente, hein, la mise en scène, des produits qui font la richesse de la région. Et où est-ce que vous allez les trouver ? Bah, dans des galeries, qui sont aussi des magasins, et puis dans un certain nombre de magasins. Donc là, au Canada, dans l'île du Prince-Édouard, il y avait ça. Et donc, ça m'a amené à cette réflexion sur le magasin et le commerce distractif. Alors voilà, cette expérience, je l'ai mise au service de ma réflexion. Tu m'excuseras, Pascal, j'essaie de quitter ta démonstration. Hop là, voilà. Oui, c'est bon. Et donc, je vais aller rapidement maintenant pour vous expliquer comment cette réflexion, elle a nourri aussi ma réflexion générale sur le commerce de détail, ici aussi en France. Là, je reprends donc cette idée que pour moi, chaque grande transformation commerciale, chaque grande mutation commerciale, donc, ne peut se comprendre dans son succès qu'en combinant un certain nombre d'éléments qui se produisent de façon concomitante. Je prends toujours, alors on peut prendre les deux grandes, je reviens à deux grandes mutations commerciales, celle du grand magasin et puis celle de la grande distribution. Pour comprendre le succès du grand magasin, il faut comprendre à mon avis, alors transformation commerciale, bah oui, l'innovation commerciale de Boussicault, hein, donc l'innovation sur les soldes, sur la publicité, sur l'achat donc, de grands volumes que tu évoquais, qu'il a déjà mis en place, donc, qui lui a permis d'obtenir donc, des prix auprès des fournisseurs, qui lui a permis de mettre en magasin donc, des produits accessibles, donc, bon, avec une strate hein, sociale sur laquelle je ne reviens pas. Et puis, donc, pour liquider, bah, il fallait faire les soldes. Donc, il a inventé la publicité et les soldes. Il a inventé aussi le fait que vous puissiez établir un contact avec la marchandise. Et là, le besoin. Le besoin qui n'est pas un besoin juste, qu'il fallait remplacer ses chaussures ou remplacer ses cols de dentelle. Ou plutôt le désir. Je dis le besoin, mais c'est le désir. Il a fait naître le désir de la consommation. Donc, c'est vraiment, en termes de transformation commerciale, énormément d'innovation. Mais on ne peut pas comprendre le succès donc, du grand magasin, à mon avis. Si on ne comprend pas les transformations sociales, on va rentrer dans une période d'économie industrielle. C'est l'industrialisation. Donc, on a une transformation économique fondamentale qui s'accompagne aussi d'une transformation spatiale. On va avoir de nouveaux quartiers. Hein, qui vont se construire, et puis de transformation économique, je viens de l'évoquer. Transformation sociale par l'arrivée, donc tu évoquais tout à l'heure le fait que la France va devenir urbaine, et bien donc cette transformation spatiale, elle s'accompagne de l'arrivée donc, d'une nouvelle population dans les villes, et puis transformation sociale aussi parce qu'en faisant naître le désir, on va aussi passer sur l'idée de consommer. On n'est plus sur la thésaurisation, la capitalisation, même si elle existe, bien sûr. Hein. Donc les grandes familles, on épargne pour doter donc, les filles qu'on va marier, mais on va quand même faire naître le besoin de consommation. Et puis la grande distribution, c'est pareil, le succès de la grande distribution, elle se comprend donc si on combine l'ensemble de ces éléments-là. Transformation spatiale, c'est la banlieue qui continue à s'éteindre, la périurbanisation qui se produit. Transformation économique, on va passer d'une économie industrielle à une économie tertiaire. Transformation sociale, c'est l'entrée massive des femmes sur le marché du travail. Et donc, avec l'entrée massive des femmes sur le marché du travail, le rythme quotidien se transforme totalement. Et avec cette transformation du rythme quotidien, le commerce doit muter. Donc, on ne peut plus ouvrir au moment où les femmes emmènent leurs enfants à l'école, pour fermer sur l'heure du déjeuner, en même temps que les familles déjeunent chez elles, puisque les familles ne déjeunent plus chez elles. Les femmes, elles vont faire les courses sur l'heure du déjeuner. Donc, rouvrir au moment où les mères accompagnent les enfants à l'école pour fermer ensuite en fin de journée, pour faire quelques petites... pour fournir, je dirais, le complément. Tout ça est bouleversé. Et puis, l'électroménager va permettre, effectivement, de pouvoir faire les courses une fois par semaine, voire une fois toutes les deux semaines. La voiture permet de mettre les courses dans le coffre. Le caddie permet de prendre les courses des rayons au coffre. Bref, on a toute une transformation qui permet d'expliquer aussi ce succès. Alors, je vais aller vite, puisqu'en fait, ça, je l'expose plus rapidement dans mes différentes diapositives. Donc la ville marchande, c'est déjà une ville. Je dirais qu'avec cette transformation, surtout la deuxième donc, de la grande surface, on va oublier la dimension d'animation qu'a le commerce. C'est un rôle qu'il a, je dirais, dès le départ. Le commerce, ce n'est pas juste la transaction marchande, ce n'est pas juste l'échange marchand, c'est aussi un rôle d'animation, un rôle social. Et donc la ville marchande, marché-foire qui anime la ville et qui rayonne sur une région, on a un pôle, c'est un pôle, donc qui va rayonner à une distance plus ou moins grande. Donc la ville industrielle, alors elle s'accompagne de cette naissance, alors je mets des passages, donc la verrière là aussi, hein, la vitrine, on évoquait les vitrines donc, qui vont se vider tout à l'heure, je crois qu'on va en parler, des vitrines qui vont se vider, mais la vitrine, elle ne peut comprendre, se comprendre qu'avec le verre industriel. S'il n'y a pas de verre industriel, il n'y a pas de vitrine. Et donc, avec le verre industriel, on aborde les passages avec les verrières, puis les grands magasins, et on va utiliser les vitrines, effectivement, pour être des lieux d'exposition. Et je vous parlais tout à l'heure de l'Union soviétique et de ce commerce d'État et de la surprise donc, qu'on pouvait avoir d'avoir des vitrines qui ne servaient à rien d'autre que mettre ce qui pouvait renvoyer à ce qu'il y aurait dû avoir dans le magasin lui-même. Mais un modèle qui confirme à ce moment-là le schéma centre-périphérie. On a un centre qui rayonne sur une périphérie qui, elle, est beaucoup moins pourvue en matière de commerce. Donc voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc les années 60, les transformations qui vont entraîner le basculement au profit de la périphérie, donc avec la grande distribution, d'abord une grande distribution alimentaire. Et pendant longtemps, je me souviens donc du discours des distributeurs donc, et des élus où on avait une complémentarité. Donc l'idée, c'était que à la périphérie, on avait du commerce alimentaire. Donc, et puis, dans le centre, on avait le commerce donc, pour l'équipement de la personne, donc, parce que l'équipement de la maison s'était déjà déplacé à la périphérie. Il faut se rappeler quand même que les premières qui se sont, surfaces commerciales qui se sont déplacées à la périphérie, c'est le commerce de l'automobile, donc, qui s'est mis dans les entrées de ville d'abord, hein, donc, qui ont commencé à former des corridors. Et puis l'équipement donc, de la maison aussi s'est déplacé à la périphérie, donc, avant l'équipement donc, de la grande surface alimentaire. Mais évidemment, cette grande surface alimentaire, comme elle a accompagné la transformation du rythme quotidien, où elle a souligné la transformation de ce rythme quotidien, ça a été beaucoup plus visible. La voiture, vous n'alliez pas en acheter toutes les semaines ou tous les mois. Même tous les ans. Le mobilier non plus. Mais l'hypermarché, oui, hein, donc le commerce alimentaire, on y avait recours beaucoup plus souvent. Donc le basculement, là, s'est vu de façon beaucoup plus évidente. Ensuite, donc ville post-industrielle, c'est un petit peu. Donc ça émerge à partir des années 70, mais ça va prendre surtout une grande accélération à partir des années 90-2000. Le renouveau du centre-ville des grandes villes, alors je parle à partir des années 70, parce qu'il y a déjà eu, à ce moment-là, j'appelle ça la réplique du centre-ville. Donc la réplique du centre-ville, c'est déjà les premières politiques de revitalisation du centre-ville à l'égard de la grande surface périphérique. L'urbanisme commercial, c'est tout l'appareillage qui a été mis en place d'un point de vue juridique, d'un point de vue la loi Royer, donc les textes législatifs. Mais en même temps, effectivement, quand même, les élus ont commencé à essayer à réfléchir à leur centre-ville. Jean Le Canuet, par exemple, pour reprendre l'exemple de Rouen, avec la première ville, la rue piétonne en France, la rue du Gros Horloge, en 1975. Donc on a rénovation et patrimonialisation au sens donc de la piétonnisation. Ce sont les premières années de piétonnisation des centres-villes qui vont aller de pair avec une politique de patrimonialisation. Et je dis aussi, c'est à ce moment-là donc qu'on a commencé à avoir des. On est passé donc de la sauvegarde du monument à la sauvegarde d'un patrimoine, donc d'un ensemble patrimonial. Et donc de plusieurs bâtiments. Et ça a favorisé aussi, avec notamment le FISAC, ça a favorisé donc la transformation des centres-villes, patrimonialisés, mais finalement aussi homogénéisés. C'est-à-dire qu'on a créé un paysage de plus en plus commun donc, sur l'ensemble des agglomérations françaises. Alors, nouveau visage commercial du centre-ville, parce que ça s'est accompagné de l'arrivée de la franchise. Hein, j'ai l'habitude de dire à mes étudiants, à ce moment-là, si vous aviez oublié d'acheter votre maillot de bain, donc là où vous habitiez, c'est pas grave, là vous aviez passé vos vacances, vous aviez à peu près toutes les chances de trouver le même maillot de bain dans la même enseigne. Hein. Donc on a eu cette uniformisation. Et parallèlement, on a une diversification à la périphérie, c'est-à-dire que la périphérie, elle ne s'arrête pas de se transformer, de s'élargir, de se complexifier, de se diversifier avec les grandes surfaces spécialisées qui vont rejoindre les grandes surfaces alimentaires, qui elles-mêmes innovent. Donc rappelez-vous, hein, le manège à bijoux, c'est Leclerc. Donc vous pouviez aller acheter à la fois votre steak haché et puis la bague de votre fiancé ou du premier communion de la famille. Hein, vous pouviez combiner deux types d'achats. Et puis après, vous pouviez même ajouter le prix Pulitzer, hein, ou le prix Goncourt, puisqu'on a ouvert donc, les rayons de librairie. Et puis, vous pouviez acheter votre voyage de noces, hein, donc, puisqu'il y avait aussi les agences de voyage. Donc, l'hypermarché se diversifie, des grandes surfaces spécialisées s'ajoutent, l'équipement de la personne s'installe à la périphérie, et on a l'arrivée du multiplex. Donc on va organiser des pôles périphériques de plus en plus diversifiés, complets, et qui accompagnent la continuité de l'installation de nouveaux résidents à la périphérie, puisqu'on a une périurbanisation qui se poursuit. Il faut savoir qu'on est passé quand même avec un équipement automobile aujourd'hui, 68% donc, des familles françaises ont, chaque adulte a un véhicule. Dans 68% des familles, chaque adulte a un véhicule. Donc ça veut bien dire qu'à la périphérie, donc, le nombre de véhicules a augmenté. Et puis on est passé donc, de 400 mètres carrés en moyenne par surface donc, par habitant à 600 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a continué aussi à augmenter le nombre de mètres carrés par personne. Donc, parallèlement, donc, dans la continuité, alors, des années 70 aux années 90, de nouveaux modèles familiaux ont émergé. On n'est plus non plus dans les années 70, des familles assez nombreuses qui s'installent à la périphérie, qui vont consommer à la périphérie. Aujourd'hui, dans les années 90, le modèle donc, familial français, il a complètement changé. Donc les familles monoparentales, les ménages d'une personne, les couples vieillissants. Donc on va avoir une diversité de demandes par rapport à l'achat. Je vais vite, hein, parce qu'après, il y a d'autres personnes. Donc gentrification sociale et commerciale vont passer de la transformation de simplement le centre-ville, que j'évoquais tout à l'heure, à la transformation et la rénovation des quartiers péricentraux, ceux qui sont continus du centre-ville, mais qui vont favoriser aussi la transformation et la rénovation d'un paysage commercial central et péricentral, donc dans sa continuité, changer avec une rénovation là aussi et une réhabilitation, et la recherche de ce qu'on va appeler alors là le retour du commerce de proximité, mais aussi du commerce spécialisé. Il va y avoir une demande pour un crémier, il va y avoir une demande pour une épicerie, enfin comment ça s'appelle ? Donc, quand on vend les fruits et les légumes, là. Primeur, merci. Donc, l'arrivée du primeur. Donc, des commerces alimentaires spécialisés. Cette demande, elle est faite par un certain nombre de jeunes ménages ou de ménages moins jeunes qui réinvestissent le centre-ville et qui ont ces demandes à l'égard de leurs élus. Sauf que ces crémiers, donc ces bouchers, ben, on n'en forme pas suffisamment. Il n'y a pas suffisamment d'apprentis dans ces filières de formation professionnelle. Non seulement il n'y en a pas suffisamment dans les chambres des métiers, mais en plus les grandes enseignes, Intermarché, Carrefour, etc., ont mis en place leur propre filière de formation pour recruter eux-mêmes leurs bouchers, leurs boulangers, leurs pâtissiers, leurs poissonniers. Donc on a donc une difficulté aggravée sur la transformation et sur la réponse à apporter par rapport à ces commerces dans ces quartiers périurbains. Je vous ai mis ici projet urbain, projet commercial, mais c'est ce qu'évoquait Pascal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a un intérêt des élus avec un intérêt des promoteurs, donc qui fait que le projet urbain peut parfois être le projet commercial. Nouveau modèle de consommation, commerce et culture, revalorisation du local, revalorisation de la proximité, du bio et de la consommation alternative, sans aide du commerce et encore. ça pose question, ça pose débat. Je serais ravie d'en débattre avec vous. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une forme de commerce distractif ? J'évoque toujours le marché. Donc, marché donc, qui, a priori, est un commerce donc, pour satisfaire vos besoins alimentaires. Mais la perception, la représentation et les pratiques que l'on a sur le marché forain n'ont rien à voir avec celles qu'on va avoir dans l'hypermarché. Et pourtant, c'est aussi les mêmes produits. On va chercher du commerce alimentaire. Pardon. Mais on a la sensation d'être dans un moment un peu hors quotidien. Et c'est cela la dimension distractive, mais on y reviendra et on discutera. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement soit de l'équipement de la personne, soit de l'équipement de la maison, c'est aussi le sentiment d'être dans un moment un petit peu différent de celui du quotidien. On n'est pas nécessairement ailleurs, mais on n'est plus forcément autant pressé de l'urgence du quotidien. Voilà. Et donc, ça c'était les transformations que j'évoquais, les conséquences donc, de cet ensemble, un pôle de centre-ville étendu et fragmenté. Tu l'évoquais tout à l'heure, Pascal, avec l'arrivée de tous ces centres commerciaux dans les villes moyennes et dans les grandes villes, 80, donc seulement deux qui fonctionnent. Ça a aussi conduit à un éclatement du centre-ville, c'est-à-dire que le pôle centre-ville s'est étendu, mais effectivement, il s'est souvent fragmenté entre le centre commercial et les boutiques autour du centre commercial, et à un autre endroit, une autre polarité, qui est soit de plus haut standing, soit de plus faible standing. Voilà. Sinon, sur le commerce, ça c'était la répartition. Voilà. Donc, commerce flâner, s'amuser, apprendre, les nouveaux magasins distractifs. Ça peut être le Nike Town, ça peut être Abercrombie, mais c'est aussi des magasins où on va essayer donc, les produits sans forcément les acheter. C'est aussi ces endroits où on va vous proposer, donc les librairies, où on va vous proposer donc, de lire quelques journaux en prenant un café. Donc toujours cette idée du temps, du loisir, de la distraction que vous pouvez combiner avec la consommation. Voilà.
Merci. Alors là, pareil, s'il y a des questions précises sur l'intervention, on en prend une ou deux, mais sinon on passe ensuite à trois exemples qu'on a volontairement sélectionnés arbitrairement, mais pour illustrer un peu cette thématique. Et ensuite, Pascal Madry et Nathalie Lemarchand reviendront, vont écouter, feront une synthèse et débattront avec vous. Donc j'appelle Maxime Bréard, Christophe Dufossé, et puis la personne qui est de... Voilà, Bénédicte Rousseau, qui est ludothécaire nomade, ou je sais pas, elle se présentera comme elle le voudra. Donc, dans l'ordre, je ne sais pas, peut-être Maxime Bréard, ensuite Christophe Dufossé, et enfin Bénédicte Rousseau. Si elle nous rejoindra, je pense. Elle est partie nomadiser sa ludothèque. Bien, allez-y.
Bonjour à tous, donc Maxime Réard, la Fédération des boutiques à l'essai. Alors le système de boutiques à l'essai est né il y a un peu plus de deux ans, suite à la volonté municipale de Noyon, qui est une commune de la ville de, enfin, une commune de Picardie, qui avait une certaine vacance commerciale et du coup des locaux fermés. Et par rapport à ça, ils voulaient mettre en place une action concrète. Et donc ils se sont rapprochés de différents acteurs pour mettre en place cette action, aussi bien des acteurs comme la chambre de commerce, la chambre de métier et une plateforme initiative locale, mais également des acteurs privés avec des banques, des assurances, et c'est même allé un peu plus loin avec des agences de communication, des imprimeurs. Donc par rapport à ça, ce système est assez simple hein, dans les faits. C'est l'occupation par un porteur de projet d'un local inoccupé en centre-ville, donc inoccupé généralement depuis un certain temps, hein, qui appartient pour la plupart à des propriétaires privés, dans une surface assez moyenne de 30 à 60 mètres carrés, qui a très peu de travaux d'aménagement, parce qu'on est quand même sur un test d'activité, donc il vit avec des frais quand même réduits. Et par rapport à ça, il y a aussi tout un travail sur le loyer et la minoration du loyer avec le propriétaire. Donc par rapport à ça, on a mis en place une action sur un local, un propriétaire privé qui souhaitait jouer le jeu et qui tout de suite a dit bah oui, moi ça fait plusieurs mois que mon local est inoccupé, je veux bien mettre en place une action de boutique à l'essai. Donc on a travaillé avec lui sur ce concept, on a stické son local. Au début c'était vraiment une action locale avec une opération de communication assez simple, hein, une vitrine qui est stickée si cette boutique était la vôtre, donc quelque chose qui interpelle. Comme vous pouvez le voir là sur la diaporama. Et par rapport à ça, on a eu des porteurs de projets qui se sont manifestés, dont une qui avait une idée d'épicerie fine, donc un commerce aussi qui était manquant sur le centre-ville, qui a testé son activité. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment une première initiative. Donc, on était sur un test de 4 mois qui a été renouvelé une fois, donc on allait jusqu'à 8 mois. Et pour diverses raisons, notamment personnelles, elle a dû cesser son activité. Et là, la municipalité et puis nous, on s'est dit, c'est un peu dommage, hein, une action assez concrète sur une redynamisation du centre-ville qui s'estompe au bout de quelques mois. On va avoir des retours négatifs dans la presse, parce qu'il faut savoir aussi qu'une opération qui se monte, c'est aussi des articles de presse, donc ce qu'on n'avait pas prévu au départ. Hein, comme je vous disais, on était sur une expérimentation. Et la presse avait fait des articles plutôt positifs. Et on a pris le contre-pied, on a dit à la porteuse de projet d'intervenir, de s'expliquer du choix de son arrêt. Et en même temps, la municipalité a souhaité refaire un appel à candidature. Donc on a une nouvelle commerçante qui est arrivée. Pareil, sur un commerce qui n'était pas forcément manquant, mais un commerce qui manquait peut-être un tout petit peu, parce qu'il y avait déjà des commerces de prêt-à-porter féminin, mais pas sur une certaine clientèle. Donc une boutique s'est ouverte. Donc là, on a étendu le dispositif à 6 mois, qui a été renouvelé une fois. Et maintenant, ce dispositif tourne sur la ville de Noyon. Donc la personne est sortie du dispositif de boutique à l'essai. Et donc là, on est sur un test maintenant qui s'étend à 6 mois, renouvelable une fois. Donc, pour vous donner l'exemple de Noyon, c'est une boutique, vous voyez, qui avait très peu de travaux d'aménagement. C'était un ancien opticien. La première boutique a été aménagée en quelques mois avec des travaux d'aménagement assez faibles, l'épicerie fine. Et puis ensuite est venue Mademoiselle Claire, une boutique de prêt-à-porter féminin. Donc, pourquoi ce système de boutique à l'essai, hein, c'est avant tout une opération de redynamisation de centre-ville avec une occupation au début d'un local, et puis on se rend compte que quand une ville met en place l'opération, et ben on a d'autres propriétaires qui s'intéressent au sujet au niveau du centre-ville, et finalement il y a plusieurs opérations de boutiques à l'essai qui peuvent se mener sur plusieurs années. Donc l'idée aussi de ce concept, c'est avant tout quand même de trouver un local bien placé en centre-ville, avec un loyer minoré quand même, et du coup au porteur de projet de pouvoir tester son activité. Et donc ça, c'est un intérêt, comme je vous ai dit, localement, on s'est aperçu qu'au bout de plusieurs mois, il y a des commerçants qui se sont intéressés, qui se sont rapprochés du manager de centre-ville par rapport aux articles qu'ils ont vus, que ce soit au niveau de la presse écrite ou les relais sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, et puis par le bouche à oreille qui marche très bien. Et finalement, on a 8 porteurs de projets qui sont installés autour de la boutique pour profiter aussi de cette image positive qu'avait véhiculé ce système de boutique à l'essai. Donc le système est assez simple, hein, c'est une volonté à la base municipale qui se rapproche de la fédération des boutiques à l'essai, et nous on travaille avec elle sur l'aménagement et la mise en place de ce concept, hein, sur un local pour une première tentative, et puis après sur d'autres locaux si la municipalité veut pérenniser l'action, donc avec des outils de communication, des outils juridiques et puis tout un accompagnement sur la mise en place, on va dire, plus opérationnelle. Donc on a une carte de France maintenant qui s'étend et qui n'est même pas tout à fait à jour, parce que maintenant on est à quasi 18 villes qui ont mis en place l'opération, et on a plus de 200 communes, donc il y en a peut-être ici qui nous ont sollicité, hein, pour échanger sur ce concept. Et donc voilà, c'est vraiment à la base une volonté municipale de mettre une action. Peut dire concrète, hein, il existe aussi d'autres dispositifs, mais nous, ce dispositif, on n'est pas sur du commerce éphémère, on est sur une action qui s'appelle boutique à l'essai, mais avec quelque chose aussi à la fin qui doit être pérenne, parce qu'à l'issue de l'opération, si ça fonctionne, on va dire au bout d'un an, le commerçant reste dans le dispositif et charge à la ville de mettre en place une seconde opération pour un futur porteur de projet. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. À chaque fois qu'une opération se monte, on a des articles de presse. Et pourquoi on a créé cette fédération aussi, en toute humilité, hein, c'était une action locale initialement. Et on était sollicité par d'autres villes. Et en novembre 2014, on a créé la fédération des boutiques à l'essai pour pouvoir dupliquer ce concept sur plusieurs territoires.
Donc voilà. Merci, Monsieur Bréard. Est-ce qu'il y a des questions, demandes de précision ? Voilà. Et toujours la même règle, on se présente.
Bonjour, Emmanuel Ménard, adjointe au maire de la ville de Bressuire, 20 000 habitants. Quel est le coût pour une collectivité d'adhérer, peut-être ? C'est peut-être par adhésion, enfin voilà, pour ma boutique à l'essai.
C'est tout à fait ça. En fait, on fonctionne par système d'adhésion qui varie selon le nombre d'habitants, donc qui va de 3 000 à 6 000 euros la première année. Hein. Pour les communes de moins de 20 000 habitants, on est sur 3 000 euros, et sur les communes de plus de 100 000 euros, de plus de 100 000 habitants, excusez-moi du lapsus, à 6 000 euros, avec des tranches de 20 à 50 000 habitants à 4 000 euros, et les communes entre 50 000 et 100 000 habitants à 5 000 euros. Et une réadhésion qui est moindre, hein, qui va de 500 à 950 euros, parce que comme la première année, on vous fournit de nombreux outils, notamment tout l'assistanat de communication et juridique, et bien entendu la mise en place opérationnelle, hein, que ce soit avec vous sur l'identification du local et sur la mise en place aussi du réseau de partenaires qui est très important dans ce concept de boutique à l'essai.
Oui, juste une petite... Pardon, oui, Jacqueline Degg, conseillère municipale et communautaire à Poitiers. Est-ce que c'est le même principe que les boutiques éphémères ? Et quelle est la différence si ce n'est pas tout à fait la même chose ?
Alors c'est un peu différent parce que comme je vous le disais, c'était peut-être pas assez clair en fin de présentation. Non, il n'y a aucun souci. C'est que nous, on est vraiment sur un système où le porteur de projet teste pendant une période quand même assez longue par rapport au système de boutique éphémère, sur 6 mois, qui peut aller jusqu'à 1 an. Et en fait, ce ne sont pas plusieurs commerçants qui tournent au sein d'une même boutique. C'est un commerçant. Et au bout de cette action, si ça fonctionne, il reste dans ce local. Et après, si la ville veut mettre en place une autre action, eh bien, c'est l'identification d'un autre local.
Bien, je vous propose d'écouter la deuxième expérience, donc Christophe Dufossé. Et on aime bien, dans Créativité Territoire, mettre le lien entre la culture et l'entrepreneuriat au sens large. Donc, voilà.
Oui, voilà. Alors, je précise, je suis prof de lettres au lycée Marcelin Berthelot à Châtellerault, donc, qui est une ville que je ne connaissais de prime abord pas, puisque c'est ma femme qui a été mutée là. Nous venons de la région parisienne, donc je ne suis absolument pas du coin. J'ai découvert Châtellerault il y a 6 ans, j'y ai acheté une maison, j'y travaille maintenant à présent. Et effectivement, ce qui nous frappait, mon épouse et moi, c'était le côté un petit peu désertique du centre-ville. Donc arrivé à Châtellerault, au lycée Marcelin Berthelot, nous sommes le 1er septembre 2016, je vais être un petit peu narratif comme dans un roman. Eh bien, on m'a proposé de prendre en charge l'option patrimoine, qui était une chose que je ne connaissais absolument pas. J'étais tout à fait néophyte dans la matière et il s'agissait d'organiser une exposition. Alors, vous imaginez, en tant que prof de lettres, organiser une exposition, c'était pour moi du domaine impossible. Mais c'est Milly Chauveau qui m'en a parlé, qui s'occupe de la section théâtre. Elle me dit, écoute, puisque tu fais patrimoine 1h30 avec les élèves, 1h30 par semaine, il y a un projet qui était présenté par Marie Pionneau, qui est médiatrice culturelle de la ville de Châtellerault, ainsi que Hervé Gachet, qui est le directeur de l'Artothèque. Il faut que je mette en avant quand même, parce que ce sont eux les pionniers, ce sont eux qui ont monté la chose, qui l'ont proposé. Moi, je n'ai fait que mettre en œuvre avec eux. Et pourquoi ne ferait-on pas une exposition des œuvres de l'Artothèque ? Bon, l'Artothèque, c'est une sorte de médiathèque, si vous voulez, de prêts, de gravures, de lithographies. Pourquoi n'exposerait-on pas ces lithographies dans les magasins vides, désaffectés du centre-ville de Châtellerault ? Voilà, pour donner une sorte de... mettre des vitrines artistiques en route. Voilà. Alors moi, je n'ai pas de clé USB, j'ai simplement l'affiche... L'affiche du projet qui a été réalisée en partenariat avec un autre lycée de la ville qui s'appelle le lycée Édouard Branly, qui est un lycée qui comprend des imprimeurs. Voilà. Ça s'appelle l'art en vitrine, je vous montre. Ça fait un peu old school, mais bon,
C'est une affiche, vous voyez, comme dans les années 70, avant l'apparition de l'informatique. Voilà, réalisée par les élèves de Branly, en collaboration avec ceux de Berthelot. En plus, il s'est agi d'un partenariat entre deux lycées qui, ce n'est un secret pour personne à Châtellerault en tout cas, ne se parlent pas beaucoup. Le lycée technique et le lycée général, il y a toujours une petite défiance entre les deux établissements. Donc un jour, un élève a dit pourquoi on ne ferait pas imprimer l'affiche de l'exposition par les élèves du lycée Branly. Et puis finalement, les élèves du lycée Branly, tout ça pour vous dire que c'est toute une ville finalement, lycée général, lycée technique qui s'est mis un petit peu en route pour cette exposition, eh bien ils ont réfléchi au meilleur motif, à la meilleure affiche, puis ça a été un partenariat tout à fait constructif. Donc au début de l'année, on a parlé aux élèves de faire des expositions dans des magasins vides. Avantage suprême, c'était qu'évidemment ça ne coûtait pas cher puisque les magasins c'était gratuit. Donc pendant très longtemps, pendant à peu près 2-3 mois, nous avions renouvelé les séances pour réfléchir, pour faire un choix d'œuvre aussi, parce qu'il s'agissait quand même d'exposer des lithographies qui répondent à la sensibilité des élèves, et puis il fallait que ce soit également un choix personnel. On a fait une sorte de brainstorming. Hervé Gachet et Marie Pionnot ont emmené les élèves visiter les magasins vides pour leur montrer... ils les connaissaient, puisqu'à priori, quand ils se baladaient à Châtellerault le samedi après-midi, très souvent, ils constataient qu'il y avait des magasins vides un peu tagués, en déshérence. Et donc, peu à peu, le projet a pris corps, mais avant tout, je dirais, dans leur tête. Ils ont choisi les lithographies. Et puis, on a commencé à faire un plan média, un plan pour toucher les élus, pour toucher la presse locale. Ils ont commencé à réfléchir à tout ça. Et ce qui était drôle également, c'est qu'ils étaient néophytes, autant que moi, et qu'ils se sont mis à apprécier le projet et à travailler de plus en plus, à s'investir. Ils étaient littéralement toujours fourrés à l'artothèque lorsqu'elles ouvraient. Alors comme c'était des élèves quand même qui venaient de milieux très différents, c'était amusant parce qu'ils n'avaient pas une haute opinion de l'art ou enfin en tout cas ils ne se voyaient pas, si vous voulez, en tant que commissaire d'exposition. A priori le mot commissaire d'exposition déjà leur posait un petit peu problème. Pour eux, commissaire c'est un monsieur avec un képi ou voilà, mais commissaire d'exposition, non, ils ne s'y voyaient pas du tout. Et puis finalement ils ont commencé à établir des cartels. Ils ont commencé à mettre en relation l'aspect artistique, c'est-à-dire la gravure, la lithographie qu'ils avaient choisie. On avait fait un choix communautaire. Et puis, ils ont commencé à voir l'espace, c'est-à-dire l'espace du magasin dans lequel allait prendre place leur initiative. Et puis, au bout de 3 mois, tout le monde était dans une motivation extrême. On a prévu un vernissage, on a fait un petit plan... médias, on a écrit des cartels. Bon, pour les cartels, c'était plus compliqué. Ça n'a honnêtement pas très bien marché. Vous savez, les cartels, ces petits cartons qui présentent l'artiste, qui présentent l'œuvre avec un petit mot. Et puis, nous avons posé une exposition avec Marie Pionnot, toujours Hervé Gachet, que je cite à loisir parce que ce sont quand même eux les instigateurs. Nous avons prévu une exposition le 5 mars. Et il y a eu un accrochage d'Hervé avec les élèves. Et puis le 5 mars, nous avons fait notre premier vernissage. Il y avait du monde, il y avait des élus. Ils étaient un petit peu excités, mais en même temps un peu timides. Vous voyez des élèves de lycée qui commanditent une exposition. Et puis finalement, les œuvres ont pris place dans les commerces du centre-ville. Eh ben moi, je peux vous dire, je ne suis pas châtellerodais, je suis pas de la région du tout, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus attractif, en tout cas. Les gens s'arrêtent dans les vitrines. Alors, je ne dis pas qu'ils achètent davantage. Bon, alors, l'aspect marketing, quand même, me semble-t-il, c'est qu'au départ, nous devions exposer dans 6 magasins, et puis finalement, il y en a 2 qui sont vendus entre-temps. Comme quoi, vous voyez, en termes, puisqu'on parle d'impact financier, ben finalement, il y a un impact financier de l'art sur le commerce. C'est presque quasi warholien, d'accord ? Voilà. Que vous dire de plus ? Eh bien, depuis, il m'a semblé que les gens s'arrêtaient davantage en centre-ville. En tout cas, il y avait un phénomène, ils étaient intrigués, si vous voulez. Alors, je ne dis pas qu'on a ramené 30 000 personnes dans le centre-ville grâce aux lithographies exposées, mais en tout cas, il y a eu un intérêt nouveau. Voilà, et c'est tout l'intérêt, me semble-t-il, de notre projet et l'enthousiasme qui s'est manifesté à cette occasion. Voilà.
Merci, Monsieur Dufossé. La même chose, est-ce qu'il y a des questions précises ou des demandes de précision? Sinon, on passe ensuite donc à la ludothèque nomade.
Bonjour, je suis Bénédicte Rousseau, ludothécaire de la Toupie Volante Ludothèque Itinérante. Alors, j'ai d'abord branché mon petit machin. Si ça veut marcher. Bon, excusez-moi, je ne suis pas très douée. Hein. Alors, je vais d'abord vous montrer mon petit logo. Voilà. Donc, la Toupie Volante, c'est une ludothèque itinérante qui se déplace sur le département de la Vienne. En l'occurrence, actuellement, je travaille essentiellement sur Poitiers et autour de Poitiers. J'ai des flyers, des cartes de visite, puisque je suis à la recherche de nouveaux partenaires essentiellement dans la campagne de la Vienne, dans les communes rurales. Donc n'hésitez pas à me demander à la fin de la journée à vous donner mes petits prospectus. Et je voulais vous parler, donc on m'a proposé de venir parler des expériences que j'ai pu faire, des installations que j'ai pu faire sur Poitiers et alentour, pour vous montrer un petit peu ce qui peut être fait avec des jeux. Les jeux, ça peut se mettre partout. Désolée, hein, c'est un peu... Hop, alors... Non, c'est ça. Alors, ici, donc, c'est l'installation qui a été faite, pour ceux qui connaissent, Square de la République, rue de Magenta à Poitiers. C'était au moment des animations de Noël, des animations de fin d'année organisées par la ville, donc la ville m'a fait venir. Donc j'étais installée à la fois... Donc, sous un tivoli de 40 mètres carrés, vous verrez un petit peu plus l'intérieur de tout à l'heure. Et comme il a fait beau au mois de décembre, j'ai pu installer beaucoup de jeux sur le parvis. Donc la première chose que je voulais dire, c'est que ludothèque, souvent on pense jeu égale enfant. Moi, je vous démontre le contraire. Voilà, c'est beaucoup. Enfin, les adultes adorent jouer avec tous les jeux. Là, en l'occurrence, c'est des grands jeux en bois. Donc je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui vont au festival de Parthenay, au Flip. Au mois de juillet, voilà, où on peut trouver ce genre de jeu. Donc, en l'occurrence, voilà, moi, j'en ai quelques-uns. Je suis en partenariat avec la ludothèque municipale de Poitiers, qui m'en prête aussi quelques-uns. Donc, ça me permet d'offrir un panel de jeux assez différents qui permettent donc aux adultes de s'amuser et également aux enfants, voilà, qu'on soit valide ou pas valide, il n'y a pas de différence. Voilà, l'intérieur du Tivoli, donc là, c'était un petit peu plus axé sur le public enfant. Donc là, vous voyez, la photo a été prise avant l'arrivée du public. Hein, je vous rassure, ce n'était pas vide du tout, tout le temps comme ça. Voilà, donc ce que je propose, moi, donc, c'est ce que normalement proposent toutes les ludothèques, c'est-à-dire un éventail très large des différents types de jeux qui existent. Donc on a à la fois donc, les grands jeux en bois, on peut avoir des jeux de société. Dans ce genre d'événement, c'est moins le lieu pour expliquer des règles et pouvoir jouer à des jeux de société. Mais on a aussi donc, ce qu'on appelle les jeux symboliques. Donc là, c'est tous les jeux où on joue à faire semblant, quand on joue à la poupée, quand on joue au docteur, quand on joue au garage, quand on joue au Playmobil. Tous les jeux de construction, donc Lego, Capla, puzzle, des jeux d'engrenage, ce genre de choses. Il y a toujours un petit coin, vous voyez les petits doudous et tout ça, un coin pour les plus petits avec des jeux d'éveil, etc. Et puis ici, vous avez ce que j'appelle ma table à bidule, donc où il y a, alors là on ne les voit pas très bien, mais il y a plein de toupies. Je suis une fan de toupies, c'est pour ça le nom de la toupie volante. Et puis aussi plein de petits jeux, des casse-têtes, des petits jeux à bouger dans tous les sens et qui intéressent aussi bien les enfants que les grands. Donc voilà, donc là c'était une installation en centre-ville. Autre exemple d'installation, là c'était au Festival à l'Ouest, dans le quartier de la Blaiserie à Poitiers, l'été dernier. Donc pareil, avec plein de jeux différents installés. Et vous voyez, voilà, il y a autant des adultes que des enfants qui sont en train de s'amuser. Là, c'était à la fête du four à pain au Breuil-Mingot. Donc, c'est juste à un quartier de Poitiers, juste en périphérie de Poitiers, où là, on avait investi une rue. Donc là, c'était une installation qui se faisait en partenariat avec la ludothèque municipale de Poitiers. Donc, elle avait emmené essentiellement des grands jeux, et moi, j'avais emmené quelques-uns de mes grands jeux, et j'avais installé. Donc, on voit les deux petits garçons qui sont en train de jouer à la cuisine. Il y avait l'espace Capla, il y avait l'espace petit, enfin bon, un peu tous les types de jeux. Voilà, vous voyez encore également que ce n'est pas que les enfants qui viennent jouer, hein, que ça intéresse vraiment tout le monde, et que voilà, il y a du monde qui vient. Ça mélange un peu toutes les générations. Donc c'est ce que j'aime dans ce travail, c'est que ça permet de se rencontrer, au moins se côtoyer, voire se rencontrer des gens qui ne se connaissent pas et qui vont se retrouver à échanger ou à jouer, à disputer une partie entre inconnus. Autre type d'installation, donc là c'était pour vous montrer qu'on peut installer des jeux un peu vraiment partout. Là en l'occurrence c'est dans la cour à l'entrée d'une école, parce qu'avec certaines maisons de quartier avec lesquelles j'interviens, on fait ce qu'on appelle des sorties d'école. Donc je viens et à 16h, quand les familles viennent chercher les enfants, il y a tout un tas de jeux installés et ça permet aux parents de rester avec leurs enfants, de jouer un petit peu, de prendre le goûter, etc. Donc voilà, on peut s'installer sur l'herbe, sur le goudron avec les tapis. Donc là, c'est un jeu de construction au premier plan qui s'appelle le Koubi, qui est un jeu qui a été créé par un Français dans le sud de la France et qui est un truc complémentaire au Capla, c'est un système juste de cubes et de bâtons qui s'emboîtent, qui permet de faire des choses très solides. Et ça marche plutôt pas mal. Autre type d'installation, là, c'était avec le centre de la Blaiserie à Poitiers, qui possède un grand bus. Alors ça, c'est mon rêve, c'est d'avoir un bus comme ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas et je n'ai pas le permis de poids lourd, donc c'est un peu compliqué. Mais je ne désespère pas. Donc le centre de la Blaiserie à Poitiers c'est un ancien bus de transport en commun dans lequel on a enlevé tous les sièges. Donc là, j'avais installé des choses à la fois à l'extérieur, avec un petit Tivoli fourni par la Blaiserie. Voilà, bon là c'était pas la grosse foule, mais c'est pas grave si c'est pas la grosse foule, si les gens s'amusent quand même. Et donc dedans, voilà ce qu'on peut installer, donc il n'y a plus les sièges, donc voilà, là c'était plus pareil le coin pour les plus petits, avec cuisine, marchande, etc. Donc dans l'autre sens, voilà, au fond vous voyez l'établi tout au fond du bus. Et après, voilà, quand il y a des enfants dedans, voilà ce que ça donne, et vous voyez que les enfants sont très concentrés et très sérieux quand ils jouent. Ça, c'est plus pour vous montrer. Ça, c'était à la bibliothèque de Saint-Benoît, bibliothèque municipale de Saint-Benoît. Donc là, les gens ne sont pas encore arrivés. C'est pour vous montrer un petit peu le type de grand jeu qu'on peut proposer, qui marche bien. Au premier plan, vous avez la version géante du Puissance 4, qui est un jeu qui existe depuis des années. Pour ceux qui connaissent le jeu à côté, c'est le Passe-Trappe. Celui d'à côté, c'est le Wake-Kick. Jeu à laquelle une arrière-grand-mère de plus de 90 ans a joué avec son petit-fils de 4 ans. Et je peux vous dire qu'elle m'avait dit avant qu'elle n'aimait pas jouer. Et ben, elle m'a menti, puisqu'elle s'est vraiment bien amusée. Autre exemple aussi pour vous montrer, voilà, là c'était avant l'arrivée du public, mais on ne voit pas très bien la personne qui est en train de tirer à l'arbalète, c'est la responsable de la bibliothèque. Donc voilà, le tir à l'arbalète, ça marche à fond. Voilà, autre type pour vous montrer qu'on peut installer des jeux partout, pareil. Voilà, ça c'est le jeu qui s'appelle le jeu d'équilibre, qui est installé dans la salle de lecture adulte de la bibliothèque de Saint-Benoît et qui permet à des adultes et des enfants de jouer ensemble. Là, voilà, on dirait qu'il est chez lui en train de jouer, mais non, il est pareil dans un des rayons de la bibliothèque en train de jouer au garage. Jeu de société, où la maman et ses filles jouent en s'amusant bien. Et puis voilà, là c'était pour vous montrer quand même une des petites toupies, qui en l'occurrence est une toupie où il y a un feutre au bout et qui permet de faire des jolis petits dessins, des jolies petites spirales. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Enfin bon, voilà, c'est typiquement le genre d'activité qui n'est absolument pas commercial. Par contre, là, c'est pas fait pour vendre, mais ça fait de l'animation et ça met de la légèreté et tous les gens y repartent avec le gros sourire. Donc peut-être qu'après ils ont plus envie d'acheter pour ceux qui veulent vendre leur truc, mais n'hésitez pas. Là, j'ai pas mis mes coordonnées sur le panneau, mais c'est toupievolanteorange.fr et latoupievolante.fr si vous allez voir le site. Je suis un peu toute seule à gérer l'association, donc le site n'est pas toujours mis à jour. Donc je vous demanderai d'être un peu voilà, de ne pas m'en tenir trop rigueur. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous remercie.
Merci. Toutes les références sont sur le programme. Tout est indiqué, donc vous pouvez vous y reporter aisément. Bien. Je vais donc demander maintenant aux deux autres intervenants, qui sont donc Soraya Daou, responsable du service des études, de la prospective et de l'évaluation à l'ANA. Donc elle nous expliquera ce qu'est l'ANA. Tout le monde ne sait pas les acronymes, c'est toujours difficile. Et puis également Rudy Château, donc de Atmosphère Coopération, ne pas confondre avec Atmosphère, comme dirait Arletty, et donc qui lui parlera d'urbanisme réversible.
Bonjour à tous. Je suis Soraya Daou, je suis la responsable du service des études à l'ANA. En quelques mots, l'ANA, alors, l'Agence nationale de l'habitat, parce que j'ai vu tout à l'heure, à l'heure du déjeuner, que cette agence n'était pas forcément connue, alors qu'elle intervient massivement sur les quartiers anciens. Alors l'ANA, c'est l'Agence nationale de l'habitat. C'est une agence qui est sous la tutelle du ministère du Logement et qui a pour vocation d'accompagner les collectivités locales, les élus, dans la mise en œuvre de leurs projets de requalification donc de leur territoire. On intervient bien sûr sur l'habitat, mais pas que, puisque les aides de l'agence vont également à destination des études, de l'ingénierie, pour déterminer un projet global de développement, mais aussi des aides pour améliorer l'habitat et requalifier les sites en lien avec une attractivité globale sur le territoire. Donc, une petite carte pour vous montrer simplement l'action que nous menons sur les quartiers anciens. La carte, elle vous représente les 100 opérations que nous avons financées l'année dernière. Donc, c'est ce qu'on appelle des OPA RU, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain. Donc, chaque année, en fait, on finance près de 700 opérations programmées sur le territoire, dont une centaine qui sont ciblées sur des quartiers anciens ou sur des bourgs anciens, dans une logique de requalification globale du territoire, en accompagnement des actions des collectivités locales. Alors l'ANA n'intervient pas seule, hein. Le projet c'est celui de l'élu, c'est celui de la collectivité, les aides de l'ANA viennent en accompagnement de ce projet. Alors, l'action de l'ANA, comment elle se concrétise? Tout d'abord, nous finançons des opérations sur 5 ans d'une collectivité, pour accompagner le territoire, mais aussi accompagner les habitants, accompagner les acteurs locaux sur une démarche de requalification globale. Donc on finance toute l'ingénierie de l'opération programmée. Nos aides s'élèvent à 50% du montant de l'opération. Nous finançons par ailleurs toutes les actions de diagnostic qui sont menées, qui doivent être menées sur le site, sur le quartier ou sur le bourg, pour pouvoir identifier les points de blocage à cette attractivité et identifier l'ensemble des préconisations et la stratégie à mettre en œuvre pour requalifier ces sites. Et nous finançons également des travaux d'amélioration. Donc là, ce sont des aides à destination des propriétaires privés, donc des propriétaires occupants, des propriétaires bailleurs, mais aussi des copropriétés, parce qu'on verra tout à l'heure, il y a un enjeu majeur sur les copropriétés, notamment sur des immeubles dans lesquels vous avez des pieds d'immeubles qui sont à destination commerciale. Et si on veut agir sur l'attractivité commerciale, il faut parfois agir également sur l'habitat. Et nous avons également des aides qui sont destinées aux collectivités locales ou aux bailleurs HLM pour faire une nouvelle offre, pour produire une nouvelle offre de logement, pour faire la construction neuve, pour faire des logements à destination sociale. Voilà l'ensemble des aides. Et nous avons également des aides qui sont à destination des collectivités pour l'évaluation de l'action, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et éventuellement identifier les actions d'amélioration à apporter à ces programmes. Alors, mon intervention, elle est ciblée sur les leviers d'attractivité sur les quartiers anciens. Donc, je vais parler bien sûr des commerces, mais pas à une échelle très importante, plutôt parler de l'attractivité globale. C'est qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut agir pour pouvoir requalifier un site globalement et redonner une attractivité à son territoire. Alors, je vais d'abord commencer par quelques diapos sur les atouts et les contraintes de ces quartiers anciens. En France, les quartiers anciens prennent plusieurs formes, sont très variés. Donc on a la chance, entre guillemets, de pouvoir intervenir sur tout type de site, tout type d'histoire. Et on a une richesse en France qui est parfois très très méconnue. Et malgré la dégradation et la déqualification de ces sites, il y a des atouts majeurs qui sont parfois ignorés et qu'il faudrait mettre en avant. On va commencer par les atouts. Les atouts des quartiers anciens, tout d'abord, c'est d'abord une centralité. C'est d'abord des sites qui, même s'ils sont vacants aujourd'hui, pour certains, constituent une centralité forte, tant sur le plan géographique, mais aussi que sur le plan économique. Mais surtout, ce sont des sites qui, par leur structuration, disposent d'une forte potentialité de développement durable. Qu'est-ce qu'on appelle un potentiel de développement durable ? Tout simplement, c'est le fait que ce soit du bâti qui soit déjà existant, déjà construit. On n'a pas à reconstruire, on n'a pas à faire de la production neuve. Les coûts de construction neuve sont beaucoup plus chers que des coûts de réhabilitation et l'impact environnemental de la réhabilitation est moindre par rapport à un impact de construction neuve. Donc l'enjeu de l'intervention au quartier ancien, c'est d'abord un enjeu de développement durable et de transition énergétique. Deuxième atout, la dimension patrimoniale. Donc des savoir-faire, une histoire architecturale et urbaine qui est à valoriser et qui s'inscrit souvent dans une action touristique, puisqu'il y a une activité économique qui parfois peut être développée, renforcée, grâce à ce patrimoine historique qu'on peut mettre en avant. On a parlé tout à l'heure justement des produits locaux ou des caractéristiques patrimoniales locales qu'on peut mettre en avant également pour pouvoir développer le site sur le plan économique. L'identité culturelle du lieu qui participe et qui valorise aussi cet aspect patrimonial. La fonction résidentielle du quartier avec l'avantage d'avoir une sorte de mixité d'usage en termes de fonction et d'habitat qui contribue à la vie collective, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans les quartiers neufs. Et aussi un potentiel dans la mixité des usages. Alors, on verra tout à l'heure, avec une contrainte forte sur les rez-de-chaussée d'immeubles qui, dans beaucoup de quartiers, ont été destinés à des commerces ou à des activités qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas toujours adaptées. Les fragilités. Fragilités de ces quartiers, ils sont de deux types. Il y a des fragilités qui sont liées à des causes exogènes, c'est-à-dire extérieures au quartier lui-même, et des problèmes, des dysfonctionnements, ou des fragilités qui sont liées à des facteurs plus endogènes, c'est-à-dire au quartier lui-même. En ce qui concerne les facteurs exogènes, on a la déprise économique, donc disparition des usines, disparition de l'appareil de production ou industriel, qui fait que on quitte certains sites et on a une paupérisation, et on a une disparition de la population, perte de population avec pour conséquence une vacance des logements ou une vacance commerciale. Mais aussi, autre facteur exogène, les politiques publiques ou politiques urbaines qui ont pu être menées sur un territoire. Périurbanisation, qui fait qu'on va quitter les centres-villes. Donc, action sur des équipements, on va construire des équipements à l'extérieur du centre, on l'a dit tout à l'heure, avec pour effet de la concurrence tant sur l'offre immobilière que sur l'offre commerciale. Sur le plan de l'habitat, maintenant, si on revient aux facteurs plus endogènes, on a un habitat qui, historiquement, est très contraint, de par sa morphologie. Les parcelles sont étroites, sont longues, les logements sont de petite taille, pas forcément bien éclairés. Ce n'est pas forcément des logements qui vont être attractifs pour des ménages, notamment avec famille ou des personnes qui ont des besoins nouveaux en termes de logement. Des défauts d'entretien, de dégradation, donc beaucoup de dégradation, avec un impact sanitaire ou sécuritaire, donc des risques d'insalubrité, sur la sécurité aussi des ménages, qui fait que ce sont des habitats qui doivent être réhabilités avant de pouvoir être habités. Des contraintes patrimoniales, on a certains sites avec des atouts patrimoniaux forts, on l'a vu, mais qui peuvent aussi être constituer une contrainte dans le sens où on a des prescriptions patrimoniales qui peuvent avoir un coût considérable sur les opérations de réhabilitation. Et enfin, autre contrainte, le morcellement de la propriété. En quartier ancien, chaque logement appartient à une personne, à un propriétaire qui a une stratégie patrimoniale qui lui est propre. Et tout l'enjeu va être dans le cadre de la requalification et de l'attractivité, de définir un projet sur le long terme qui va permettre de réunir l'ensemble des stratégies de chacun des propriétaires. Sur le plan de l'économie, vacances, problèmes de vacances, des commerces, mais aussi de l'inadaptation des locaux pour répondre à certains besoins de commerce. Et enfin, des qualifications urbaines qui sont liées à des espaces publics qui sont déqualifiés ou absence des services ou d'équipements. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je voulais juste vous présenter les différents types de quartiers anciens qu'on pouvait rencontrer. Donc, les quartiers anciens, on a 4 grands types. Ceux qu'on va rencontrer dans les grandes agglomérations, dans les villes moyennes. Donc, c'est tous les quartiers qu'on a en crise aujourd'hui, hein, donc en Île-de-France notamment, ou dans les grands, autour des grandes villes. Des villes situées dans les territoires en débris, donc ceux qui sont issus de la désindustrialisation notamment. Les villes anciennes à valeur patrimoniale, notamment celles du pourtour méditerranéen, mais pas que. Et enfin, les petites villes en territoire rural, dans lesquelles on a une déqualification beaucoup plus globale sur le plan économique. Dans les quartiers anciens qui sont situés dans les grandes agglomérations, on a un enjeu de surdensité du tissu, un habitat dégradé, de l'insalubrité, avec un traitement global sur lequel il va falloir agir, à la fois sur la propriété, mais à la fois sur l'habitat, mais aussi parfois sur donc des actions coercitives à destination des marchands de sommeil, puisqu'on est sur du parc, sur du logement, qui n'est pas forcément traité à bon escient. Les quartiers anciens qui sont situés dans les territoires en déprise, où là, l'enjeu, ça va être donc une mutation économique. L'enjeu, ce sera de retrouver un renouveau économique pour pouvoir faire revenir des ménages. Il faut aussi reconnaître que dans certains quartiers, la requalification, la revitalisation n'est pas forcément possible. C'est-à-dire que si l'activité économique ne peut pas être retrouvée, la vacance, la lutte contre la vacance ou la lutte contre cette déprise n'est pas forcément possible. Donc l'enjeu, ça va être redynamiser le territoire sur le plan économique et conserver le rôle social et culturel de ces sites dans un contexte de resserrement urbain, où là, on va justement essayer d'arrêter la revitalisation, l'étalement urbain. Les villes du pourtour méditerranéen, avec les enjeux patrimoniaux dont je vous parlais, où là, l'enjeu, ça va être de requalifier les parcelles, le bâti, avec des interventions lourdes sur le plan foncier, sur le plan de la structure des logements, avec la nécessité aussi de mobiliser des compétences locales en matière de réhabilitation. Et sur le plan économique, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, on a une perte du savoir-faire artisanal, du savoir-faire architectural, pour pouvoir réhabiliter ces sites. Dans les territoires en région frontalière, on va surtout faire appel aujourd'hui à des artisans italiens, à des artisans espagnols, parce qu'on perd en France cette compétence-là. Et enfin, les petites villes ou les bourgs anciens en territoires ruraux, où là, on a un habitat qui s'est dispersé autour de la périphérie. Et l'enjeu, ça va être de requalifier le bâti qui s'est dégradé dans le centre ancien en lien avec une politique d'aménagement du territoire beaucoup plus globale. Alors, les facteurs d'attractivité pour ces quartiers, c'est bien sûr redonner une attractivité urbaine, paysagère et environnementale, c'est-à-dire une attractivité globale à ce site. C'est redonner de l'attractivité à l'habitat, donc une attractivité résidentielle, en tenant compte du marché. Vous avez des marchés qui sont très, très, très tendus, dans lesquels les valeurs foncières et immobilières sont très élevées. Et vous avez d'autres marchés dans lesquels vous avez, au contraire, une détention du marché, c'est-à-dire où là, l'offre foncière est très, très faible, la valeur foncière est faible, les valeurs locatives sont faibles, et auquel cas, c'est des politiques bien adaptées qu'il va falloir mettre en place. Et enfin, une attractivité commerciale et artisanale, de manière à ce que globalement, ces quartiers retrouvent une attractivité pour pouvoir attirer des habitants et pérenniser une action sur le long terme. En ce qui concerne l'attractivité urbaine et environnementale, il y a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de toute façon, mais simplement rappeler que tout d'abord, le premier levier, c'est la situation géographique et l'environnement paysager. Où est située la ville ? Quel est son environnement ? Pour pouvoir attirer des ménages. Ensuite, le deuxième levier, c'est la géopolitique, la centralité, l'accessibilité de la ville, les transports, la localisation, très important comme levier d'attractivité. La qualité des espaces bâtis et non bâtis, autre levier d'attractivité sur le plan urbain. La question de l'économie et de la structure des institutions qui sont inscrits dans ce quartier. Donc, quelles sont les activités économiques, est-ce qu'il y a des commerces, est-ce qu'il y a des équipements, où est-ce qu'ils sont situés. La question culturelle et patrimoniale, donc parler de l'identité du lieu, mais aussi du patrimoine qui constitue un levier d'attractivité pour ces territoires. L'enjeu du numérique aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit pour des personnes âgées, que ce soit pour l'activité des entreprises, que ce soit pour l'activité du quotidien de chacun des habitants, le numérique est devenu indispensable. Et enfin, l'enjeu environnemental et de développement durable dont on parlait tout à l'heure. Donc, un exemple de valorisation urbaine, paysagère et environnementale menée, c'est celle de Carpentras. Carpentras, qui a mené tout un projet sur son quartier ancien et qui a commencé par valoriser tout son patrimoine, son site, dans lequel elle met en avant, bien sûr, les aspects patrimoniaux, mais aussi les productions locales qu'elle va inscrire dans un développement économique au sein de son quartier ancien. Pareil pour son projet urbain, l'identification de points clés, d'espaces clés dans lesquels va émerger donc l'habitat, les zones de commerce, les zones de bureaux, les équipements publics qui vont s'inscrire dans une dimension globale de revitalisation du site. Ensuite, les leviers de l'attractivité de l'habitat. L'habitat, ce n'est pas qu'un logement, c'est l'environnement du logement et c'est aussi la qualité du logement. Donc le premier levier pour l'habitat, c'est le marché et son environnement. Où est situé le logement et quel est l'environnement de ce logement? Le deuxième levier, c'est son accès. Est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce qu'il y a des transports, services et équipements? Son accessibilité, et notamment l'accessibilité au regard des personnes âgées. En quartier ancien, on n'a pas la possibilité de construire des ascenseurs. Est-ce qu'on doit destiner les espaces des rez-de-chaussée au logement pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, par exemple? Ou alors, est-ce qu'il faut intervenir massivement sur le bâti de manière à dédensifier et permettre la construction d'ascenseurs pour faciliter l'accessibilité de ces logements? Donc ça, c'est aussi d'autres questions qu'il faut se poser. Avoir aussi une offre diversifiée par rapport aux habitants, notamment pour la mixité sociale, c'est-à-dire une offre locative, une offre en accession, en fonction des besoins de la population. Le levier sur la qualité technique et le confort du logement, maintenant en plus la performance énergétique qui est un levier assez important. Et enfin, la question de l'équilibre économique global du logement. Combien coûte le logement? Combien coûte le loyer? Combien coûte le coût de la réhabilitation? Et quel est le poids du budget logement sur le budget de la personne? C'est-à-dire que va aussi se poser la question du pouvoir d'achat des ménages dans le cadre de ces réhabilitations. Juste quelques données sur une enquête qu'on a menée auprès de locataires et de propriétaires occupants qui se sont installés en quartier ancien après une opération de renouvellement urbain. On leur a demandé quelles étaient les raisons pour eux d'avoir choisi d'emménager dans le logement pour lequel ils venaient d'avoir une subvention pour la réhabilitation. Donc ce sont des nouveaux emménagés, ce n'est pas des propriétaires qui étaient en place. 72% nous disent que la première raison pour être venu s'installer dans ces quartiers anciens, c'est la localisation du logement. C'est le quartier ancien. C'est le fait d'avoir un logement qui est inscrit, qui est situé dans un quartier ancien. Et c'est un enjeu majeur. Le deuxième critère, c'est la superficie de nombre de pièces. Donc ça, c'est un élément qualitatif en termes de confort qui vient en deuxième position lorsqu'on intéresse les ménages. Le troisième levier, c'est le loyer attractif. Donc c'est la question économique. C'est le coût du logement pour le ménage. La qualité du logement, qui vient en quatrième position, et ensuite la qualité des services et des commerces du quartier, donc qui viennent après la localisation et après la qualité du logement. Donc, mais par rapport, donc quand on leur dit, mais qu'est-ce qui est mieux par rapport à avant, à là où vous habitiez avant, le premier critère qui vient, c'est les commerces. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui viennent emménager dans les quartiers anciens sont des ménages qui étaient situés dans des quartiers encore beaucoup moins desservis par les commerces ou par les transports. Donc on est sur une attractivité du quartier qui est liée à une requalification globale. Donc, juste pour terminer du coup sur les leviers de l'attractivité de l'habitat, donc bien sûr c'est un projet qu'il faut inscrire dans le cadre du PLH, après un diagnostic assez détaillé, et mobiliser l'ensemble des outils pour pouvoir intervenir globalement sur le logement, voire des outils coercitifs, mais je ne vais pas détailler là, on le fera plus tard si vous avez des questions. Et un exemple aussi d'un projet de traitement de l'habitat pour une offre diversifiée établie par la ville de Toulon, cette fois dans son centre ancien, qui s'était fortement déqualifié ces dernières années, où là, la ville de Toulon a décidé d'avoir un emménagement sur des îlots bien bien précis, sur des sites bien précis, avec une action incitative sur l'habitat, mais aussi une action coercitive, avec une production d'offres diversifiées, dont des logements pour les, dont les logements pour des étudiants ou des logements sur le, pour les propriétaires privés. Et enfin, les leviers de l'attractivité commerciale et artisanale. Dans le cadre des OPA et RU que l'ANA finance chaque année, il y a des critères, des leviers qui sont en tout cas, qui nous sont parus indispensables. Le premier, c'est l'insertion urbaine et paysagère dans lequel s'inscrit le commerce. Donc l'architecture du lieu, les espaces du lieu sont importants pour pouvoir y inscrire un projet commercial qui soit pérenne. Le deuxième, c'est l'accessibilité stationnement. Ça, on le voit bien, le quartier ancien, sa difficulté, c'est de pouvoir accueillir des stationnements et de pouvoir accueillir des voitures. Donc comment on fait pour attirer à minima cette accessibilité? La question du confort d'usage, mais aussi de sécurité, comme un élément de levier d'attractivité pour ces commerces. La destination commerciale, c'est quel commerce on y met dans ces quartiers. On ne peut pas tout mettre. Comme on l'a vu, ce sont des petites surfaces, souvent en pied d'immeuble. Si on veut agrandir les surfaces, comment on gère la collectivisation des espaces, notamment sur le plan du statut juridique de ces immeubles, pour pouvoir justement accueillir des espaces plus grands. Et enfin, dernier levier, celui de la cohérence économique. Combien va coûter le commerce au regard du loyer, au regard du coût du foncier? Donc il faut étudier les valeurs vénales, les valeurs locatives, de manière assez détaillée avant de faire le projet commercial. Donc, je ne vais peut-être pas parler des leviers ici, puisque de toute façon, on va en parler un peu plus tard. Donc, mais globalement, les leviers d'attractivité commerciale reposent sur une bonne connaissance déjà de ce qui existe. Donc, il y a beaucoup de collectivités qui ont mené des observatoires du commerce et des diagnostics assez approfondis, notamment sur la localisation de ces commerces, où ils étaient situés, si c'était des pieds d'immeubles et que c'était des immeubles qui avaient une vocation résidentielle, et donc c'était des logements, une action commune, le commerce et logement à mener conjointement sur ces quartiers. Et dans le cas de cette observation, essayer d'étudier les commerces qui ferment, les commerces qui ouvrent, ceux qui se déplacent, et mais aussi en lien avec le projet économique de l'agglomération. Parce que les actions économiques que va mener la ville doivent être en cohérence avec celles de l'agglo, pas forcément en conflit. Et donc voilà, donc il y a toute une étude à réaliser, mais ça je ne rentre pas dans le détail, avec des outils incitatifs et coercitifs qui peuvent être menés. Je tenais juste à dire que dans le cadre de nos actions sur les quartiers anciens, nous avons un partenariat avec la Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts cofinance des études avec nous, donc les études qui permettent d'établir ces stratégies. Et la Caisse des dépôts finance toutes les études commerciales sur ces sites. Et pour finir, le projet d'attractivité commerciale qui a été défini sur Saint-Denis, donc en Île-de-France, où là, il y a une ville, un quartier ancien, donc en zone très tendue. Par contre, une paupérisation et une vacance des commerces. Et il y a tout un projet qui a été établi pour identifier quelles étaient les polarités à diversifier et à structurer au sein de la ville, les différents types de commerces qui existaient, les marchés, centres commerciaux, et aussi l'ensemble des commerces, les typologies de commerces qui existaient pour pouvoir établir ceux qui allaient être créés, notamment à partir d'enquêtes auprès d'habitants et auprès de commerçants pour identifier le projet de commercial à mettre en place sur le centre ancien. Alors, juste pour terminer, la dernière slide, c'était l'enjeu pour demain, en tout cas pour l'ANA, pour nous. C'est-à-dire qu'on investit beaucoup d'argent sur la requalification des centres anciens. Et donc, pour pouvoir mesurer l'impact de la subvention et l'impact de l'investissement public dans ces secteurs-là, on s'est engagé dans une étude qui permette d'évaluer la valeur immatérielle générée par une opération d'OPA et RU sur un territoire. L'idée, c'est de mesurer la valeur d'un territoire. C'est-à-dire que dans le cas d'une opération qui a bénéficié de subventions publiques, quelle a été la valeur créée, la valeur générée? Est-ce que cette valeur créée, qu'elle soit directe ou indirecte, parce que quand on crée de la valeur, c'est des gains générés sur un territoire, mais c'est aussi des coûts qui ont été évités. des coûts en subvention, des coûts en... Donc, et l'idée, c'est de pouvoir mesurer cette valeur en euros et en emplois. Et aujourd'hui, les outils économiques pour faire ça ne sont pas encore suffisants. Donc là, on est en train de développer. On a une étude qui a été lancée il y a un mois. On espère terminer d'ici la fin de l'année pour identifier cette valeur, en tout cas d'une méthodologie d'évaluation de cette valeur qu'on pourra ensuite valoriser pour montrer aux collectivités, avant même qu'elles s'inscrivent dans un projet, pour voir quel serait l'impact d'une action comme celle-là sur un quartier ancien, globalement sur leur territoire. Voilà. Voilà, j'ai terminé.
Merci. Merci beaucoup. Si Rudy Château veut poursuivre et présenter Atmosphère Coopération et la réversibilité urbaine.
Donc Atmosphère Coopération, c'est un aménageur de programmes immobiliers réversibles et coopératifs. Alors réversible, ça veut dire quoi? C'est mettre en place un programme immobilier, donc des bâtiments, des aménagements, qui répondent à un besoin à un moment donné. Et si ce besoin devient obsolète ou doit évoluer, eh bien le projet peut lui-même évoluer, voire même disparaître ou se déplacer en fonction des besoins. À l'échelle d'un territoire, c'est permettre de rendre le territoire plus flexible pour s'adapter à des besoins changeants. La coopération, c'est une notion de co-conception où chaque acteur est force de proposition sur un projet, que ce soit les collectivités, les habitants, des porteurs de projets. Et c'est aussi d'associer dans ces logiques-là des financeurs privés ou publics qui souhaitent financer des projets de développement local via l'épargne solidaire et via des parts sociales coopératives et donc une prise de part dans les projets et dans le souhait de vouloir accompagner financièrement des projets de développement local. Je vais vous présenter donc le contenu et les propositions d'Atmosphère dans une première phase. Et dans une deuxième phase, je vais vous parler de deux projets concrets de développement local de Bourg à Montflour. Donc c'est au nord de Laval, un petit village de 250 habitants, et à La Boissière-sur-Èvre, qui est un village de 450 habitants entre Nantes et Angers. Donc là, je vous montre donc un petit schéma qui synthétise un petit peu le principe de la réversibilité. Donc sur un site, donc occupé ou semi-occupé ou une friche, eh bien le premier objectif, quand on intervient, eh bien c'est de la co-conception, de la coopération, donc de faire travailler tous les acteurs autour d'un projet pour révéler les besoins, et donc répondre réellement aux besoins de la territoire et y voir identifier des porteurs de projets qui souhaitent développer des activités qui n'ont pas forcément été identifiées ou qui n'ont pas les moyens de pouvoir proposer ce type de projet. Et dans un deuxième temps, c'est aussi intégrer des financeurs dès le début, dès l'amont, pour pouvoir justement financer les projets. Une troisième étape, c'est la réversibilité anticipée. C'est-à-dire que dès qu'on met en place un projet, on anticipe dès le début sa réutilisation, donc son évolution, voire pouvoir réutiliser donc ailleurs les bâtiments, les aménagements, dans un souci donc de rentabilité aussi, c'est-à-dire que l'argent investi, même si le projet ne marche plus, doit évoluer, ce n'est pas perdu, et aussi dans l'idée que derrière, eh bien, on n'a plus de friche, mais bien un terrain qui a été donc occupé pendant la durée de l'activité et qui a été valorisé en termes de biodiversité, d'aménagement. Et donc, on arrive avec un espace qui peut soit redevenir à son état naturel, soit permettre une autre utilisation. Dans ces étapes-là, on s'appuie aussi sur des principes donc, techniques issus de la filière sèche, modulaire, démontage, etc. C'est des solutions aujourd'hui qui existent, qui sont démontrées à différentes échelles, soit grand équipement, petit modulaire ou autre, et qui sont très intéressants parce qu'il y a une grande rapidité d'exécution, donc réactivité, mais aussi permettre un dessin de l'espace qui soit évolutif, donc qu'on puisse agrandir, mais aussi qu'on puisse rétrécir, et voire même être démonté. Donc l'ensemble, en effet, de ce schéma-là, donc on est bien sûr, à la manière de l'économie circulaire, sur un aménagement circulaire qui permet en effet de répondre à des besoins à un moment donné, sans être dans une logique d'étalement urbain, voire de génération de friches dues à des changements de programme et de société. Donc, les trois points importants, donc c'est bien améliorer l'attractivité des territoires et permettre donc à des porteurs de projets, d'activités ou autres programmes de pouvoir donc s'adapter aux changements et pouvoir évoluer aussi dans le temps, être réversible et adaptable. C'est apporter à l'échelle du territoire, donc c'est une nouvelle flexibilité, donc justement permettre de s'adapter en fonction des différents besoins et de ne plus générer de friches. Voilà. Et donc avoir un impact environnemental positif. Dernier point, c'est rentabiliser, réutiliser un bien immobilier. C'est-à-dire que l'investissement qui a été fait au départ, qui peut être risqué, tout a été mis en place pour pouvoir faire que les aménagements et les constructions soient réversibles, démontables et déplaçables, et bien si le projet donc, vient à disparaître, et bien, au moins l'investissement des bâtiments et autres peut être remis dans un autre projet. Et tout cela à coût d'installation similaire à des aménagements classiques. Clac. Donc là, quelques exemples concrets sur lesquels on travaille. Donc on travaille spécifiquement surtout sur les territoires périurbains et ruraux. Notamment là, on a plusieurs projets aussi. Donc c'est des anciennes fermes qui sont occupées par des porteurs de projets, que ce soit agriculteurs, paysans boulangers, mais aussi il y a du service, la santé, etc. C'est un groupement d'acteurs économiques qui se met ensemble sur une ferme ou un site en milieu rural, et ils se mettent ensemble. Et l'objectif qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, donc, ils se servent en fait des bâtiments existants, soit pour se loger, mais surtout pour développer l'activité. Et ils créent leur logement donc, autour, donc en réversible, de ces sites-là, ce qui permet donc de donner vie à ce site-là, de le réhabiliter. Et si ce projet vient disparaître, eh bien tout ce qui a été donc rajouté en réversibilité peut s'en aller. Et le site a été rénové, valorisé, et donc peut être réutilisé pour autre chose. Un autre exemple, une zone d'activité. Donc là, on est sur la banlieue d'Angers. C'est un siège social complètement réversible. Les bureaux sont modulaires, le hangar est démontable, tout est posé sur des pieux en métal vissés dans le sol qu'on peut facilement démonter. Et donc l'ensemble de cet équipement peut être enlevé et déplacé. On a optimisé aussi tout ce qui est surface d'enrobée pour limiter aussi les coûts des installations. Vous voyez aussi que sur ce site-là, il n'y a qu'un quart de l'espace qui est occupé. Donc l'objectif, c'est que cet espace-là qui reste inoccupé, avant l'extension éventuelle de l'entreprise qui est installée, peut permettre d'intégrer d'autres activités réversibles. Donc, ce qui veut répondre notamment aux faibles occupations des zones d'activité sur les territoires, mais aussi apporter une mixité dans les zones d'activité et au niveau une évolutivité. Un autre exemple, une zone d'activité à Montflour, on va en parler de ça tout à l'heure, c'est une zone d'activité réversible. Aujourd'hui, le besoin, c'est 7 porteurs de projets qui souhaitent s'installer sur ce petit bourg-là, mais demain, dans 10 ans, dans 20 ans, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce que ces locaux vont être occupés? Aujourd'hui, c'est un terrain qui est inoccupé. C'est une zone d'activité qui a été aménagée par l'agglo. Donc, il y a une raquette, etc. On peut s'installer. Mais il est inscrit complètement dans un milieu rural. Eh bien, si, en effet, les activités ne fonctionnent plus, ne marchent plus, pour éviter une friche et avoir participé à l'étalement urbain, eh bien, l'ensemble des locaux peuvent être enlevés, réutilisés ailleurs. Et on redonne à ce site son état naturel et agricole. Donc là, on parlait de l'activité, l'habitat, donc pareil, de manière identique. Donc là, c'est un projet donc, de logement pour les aînés, donc dans un petit village rural. Hein, l'objectif, c'est de garder les aînés le plus longtemps possible dans les bourgs. Et donc là, l'objectif, c'est de créer, donc là, sur une maison existante, dans l'espace donc jardin à l'arrière, des habitats réversibles qui permettent, donc qui sont accessibles aux handicapés, etc., qui s'adaptent en fonction du niveau d'autonomie des personnes. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir donc créer un lieu, donc une dynamique locale, de permettre aux personnes donc âgées de pouvoir rester dans leur bourg. Et comme c'est un programme aussi qui peut être aussi évolutif, hein, on va dire que les besoins sont différents en fonction des années. Eh bien, l'idée, c'est de créer un réseau d'espaces de ce type-là sur l'échelle de ce territoire-là, pour pouvoir aussi répondre et permettre au logement de pouvoir donc se déplacer et changer en fonction des besoins, ce qui peut éviter en plus donc les vacances qui sont souvent un problème dans les logements et dans les EHPAD. Et donc c'est juste ajuster en fait les besoins en fonction ajuster le programme immobilier en fonction des besoins. Ce qui peut aussi marcher avec les zones d'activité. On installe une entreprise sur un lieu, l'entreprise s'en va, et bien plutôt qu'avoir un hangar qui ne sert plus, le hangar, on le prend, on le démonte et on le met ailleurs pour répondre à un besoin d'une autre activité. Sinon aussi, on répond à la problématique du logement en cohabitat, notamment par rapport à un financement particulier, en fait, où les propriétaires, en fait, les habitants vont être propriétaires de leur maison et du terrain sur lequel ils construisent la maison. Et tout le reste, tout ce qui est, extérieur et lieu commun, sera financé par la SIC et donc par des prises de parc sociales coopératives, ce qui permet de répondre aussi à la problématique du logement et des coûts différents. Un autre exemple aussi, un lieu d'activité pilote au milieu rural, c'est permettre d'installer donc un site pilote qui sera, lui, complètement réversible, c'est-à-dire ni raccordé au réseau et complètement autonome en énergie. Et le logement individuel. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir aussi répondre à la problématique du logement, notamment des agriculteurs, qui souvent implique l'extension urbaine. C'est-à-dire que, et là, on travaille ça avec des collectivités, c'est de dire que le logement est dépendant de l'activité. C'est-à-dire que si l'activité est pérenne, existe, et bien le logement a lieu d'exister. Si l'activité est vouée à disparaître, le logement aussi. Donc du coup, on n'est plus dans une logique d'étalement urbain. Et aussi, donc, souvent, on en a parlé tout à l'heure, un projet réversible aussi va parfois permettre de rénover aussi des bâtis anciens. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment mixte, c'est lié entre la valorisation d'un patrimoine, la réponse à un besoin, tout en étant flexible et évolutif. Voilà. Donc le rôle de l'atmosphère par rapport à sa structuration, donc c'est d'abord une organisation territoriale, donc là qui s'organise aujourd'hui à l'échelle de la région. Donc aujourd'hui, on est soutenu par Angers Technopole, par la région Pays de la Loire, et depuis 5 ans, on est accompagné par Angers Technopole comme projet innovant. Donc aujourd'hui, on se structure. Donc la SIC va être créée d'ici quelques jours autour d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. C'est un fonctionnement horizontal où chaque acteur en fait est représenté dans le fonctionnement. Cette SIC donc permet donc de donner une cohérence sur l'ensemble du territoire de la région Pays de la Loire et donc de pouvoir adapter notre territoire à des nouvelles mobilités et des nouvelles flexibilités. Notre rôle, du coup, c'est, dès qu'on est sollicité par les porteurs de projets, c'est de valider les projets, notamment en termes économiques, de faisabilité et de s'assurer que l'ensemble des partenaires, des acteurs, travaillent ensemble. Il y a une vraie convergence. À partir du moment où il y a cette convergence et que le projet est viable, eh bien, on met en place tout un protocole qui permet de faire que, en effet, le projet apporte une valeur ajoutée. Et donc, on intègre donc un document cadre qui intègre à la fois des documents donc juridiques et réglementaires, administratifs, techniques. Et donc, l'accompagnement, c'est de la faisabilité jusqu'à la construction, au suivi pendant la durée de vie du lieu, jusqu'à la fin de vie du lieu. Hein, notre mission, elle est bien jusqu'à la fin de vie du lieu pour démontrer que lui est bien réversible et qu'il apporte une valeur ajoutée, jusqu'à donc le financement par part sociale coopérative, sachant que certains projets que l'on accompagne parfois ne peuvent pas être financés. Donc via ce financement participatif, eh bien, on permet donc à ces projets de voir le jour. Voilà. Donc là, un petit schéma qui résume un petit peu l'organisation d'Atmosphère. Donc à l'échelle du Pays de la Loire, donc on a une association de promotion et sensibilisation qui permet de renseigner sur l'intérêt de la réversibilité. Et on a donc une SIC régionale, donc c'est un peu l'organe opérationnel, donc qui permet en effet de mettre en place les projets, de les suivre et d'assurer la réversibilité. Donc on est dans l'opérationnel et qui est donc décomposé en plusieurs collèges représentatifs des acteurs de notre territoire, c'est-à-dire les collectivités, les coopérateurs, investisseurs et les porteurs de projets, les salariés donc de la structure et l'association Atmosphère qui est représentée. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un fonctionnement horizontal où chaque acteur est représenté et représentatif. Alors, les deux exemples que je souhaitais vous montrer. Donc, le premier, donc, c'est le bourg de la Boissière-sur-Èvre. On a été sollicité par cette commune parce que le besoin, en fait, c'était qu'ils étaient en train de mettre en place un PLUI sur leur commune. et donc ils voulaient vraiment avoir un projet, un vrai projet de ville pour pouvoir donc mettre en place leur PLUI voilà, de manière concrète. La commande, hein, c'était le logement en effet des personnes âgées. Pardon. Le logement, donc garder les anciens dans la commune, préserver la dynamique en local et préserver l'intégrité du bourg. Et l'intégrité du bourg, qui est vraiment intéressante pour eux, c'est les jardins vivriers. Il y a énormément de jardins vivriers dans cette commune qui sont utilisés. Et en contradiction, il y avait les objectifs du PLUI, qui était de dire, faut densifier, etc. On limite l'étalement urbain, etc. Donc du coup, tout le travail, ça a été de dire, là, comment peut-on à la fois répondre aux besoins de logement, de densification, et en même temps préserver l'intégrité du bourg. Eh bien, on a travaillé donc avec la commune de La Boissière et la commune nouvelle. Aujourd'hui, maintenant, c'est une commune nouvelle. Montrevaux Communauté, et donc on est parti sur certains terrains qu'on avait jugés donc prioritaires, et bien de partir sur, donc là c'est une innovation hein, réglementaire, sur une zone, un secteur URJ. Donc c'est un secteur constructible, réversible sur jardin. C'est-à-dire c'est un secteur qui permet d'urbaniser, qui peut être urbanisé pour répondre à des besoins. Donc là, en l'occurrence, le besoin c'est un équipement multi-usage, des logements pour personnes âgées. Si ce besoin vient à disparaître ou si on va dire qu'on a d'autres besoins, eh bien cette zone permettra de pouvoir apporter un peu de souplesse dans le schéma d'urbanisme qui est plutôt rigide. Voilà. Et donc, les petits bourgs aujourd'hui ont besoin de ça. Parce que si on sectorise trop rigide, eh bien, le bourg aura du mal à répondre à ses besoins. Et donc, c'est tout en étant dans cette logique du PLUI et du document d'urbanisme, c'est d'intégrer un peu de souplesse, notamment via ce secteur URJ. Et donc, ce qui permet après donc, de construire donc, le logement intergénérationnel et la salle multi-activité. Et ce qui est très intéressant, c'est que La Boissière est à 10 km de Bouziguer, le projet des aînés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'avoir une cohérence territoriale où on va dire, la banque de logement des personnes âgées puisse être mutualisée avec la commune voisine et donc de pouvoir répondre à l'échelle du territoire. Associé à ça, et pour créer de la dynamique aussi, et pour consolider la dynamique qui existe dans ce bourg-là, on a donc mis en place, et les habitants ont mis en place, la création d'une coopérative de services locales. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette coopérative, en fait, on l'installe dans un hangar au centre-bourg qui est désaffecté, qui est non utilisé, mais qui est un espace potentiel. Donc par les ateliers qu'on a fait avec les habitants, avec le porteur de projet, a émergé d'une part un lieu, un site qui était prépondérant, et en même temps des porteurs de projets qui n'avaient pas du tout été identifiés en amont par la collectivité ou par les études liées au PLUI, et ce qui a permis donc de consolider donc la dynamique et donc de permettre aussi aux habitants de pouvoir être acteurs de leur propre développement. Hein, ça répond aussi à la question du développement local des bourgs ruraux, notamment avec la commune nouvelle. Et donc, l'idée, c'est comment, en effet, réussir à préserver des dynamiques en local, malgré la centralisation des moyens. Et donc, en effet, la prise d'action, on va dire, des habitants, la réponse aux besoins locaux identifiés, peut permettre, en effet, de pouvoir garder et préserver des dynamiques sur le territoire. Voilà quelques exemples. Illustration des projets en cours. Et donc là, vous avez donc ici, à gauche, ici, donc le document qui synthétise les objectifs de la coopérative sur la mutualisation des moyens, les différents ateliers qui ont été donc discutés et proposés par les habitants. L'exemple de Montflour, donc là, c'est un petit village donc, de 250 habitants, pour finir. Donc là, on a une zone d'activité donc, qui a été donc, réalisée par l'agglo, avec une raquette ici, depuis 10 ans, et depuis 10 ans, il ne s'est rien passé. Voilà. Donc, l'agglo, aujourd'hui, a beaucoup de mal à remplir ses zones d'activité. Et à côté de ça, on a 7 porteurs de projets, voilà, en local, qui travaillent dans les fermes à côté, etc., ou en périphérie. Et ils veulent se mettre ensemble pour pouvoir créer tout simplement une dynamique en local et développer leur activité. Donc, ils nous ont sollicité. Et du coup, à partir de là, s'est inscrit aussi la commune et la commune nouvelle pour proposer un projet de développement local concret. Donc là, déjà, tout l'objectif, c'était de dire, eh bien, la zone d'activité, ça va pas être une zone d'activité, en fait. Ça va être un lieu en plus qui va générer un nouveau espace public, hein, parce qu'on va se servir, parce qu'il y avait déjà des, il y avait un bassin d'orage, il y avait un, voilà, un espace qui était disponible. Et l'idée, c'est de dire, ben, en fait, dans cette zone d'activité, ben, ça va générer un nouvel espace et des nouvelles activités qui vont permettre de pouvoir donner une cohérence aussi en lien avec le centre-bourg et créer, participer à la dynamique. Et du coup, derrière, ce qui a été proposé, eh bien, c'est de pouvoir, le long de cette place-là, eh bien, installer donc, des bâtiments, voilà, pour pouvoir justement faire que on essaie de rompre avec ce côté zone d'activité, grands espaces, etc. Et on dit non, ça peut aussi générer des pratiques, des espaces et une qualité dans le bourg. Et donc l'objectif derrière, comme je vous dis tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, hop, voilà, aujourd'hui donc la zone d'activité, bah, c'est un grand champ, voilà, en plein milieu naturel et agricole. Donc là, pendant quelques années, le plus longtemps possible, on espère, on va mettre en place et répondre aux besoins de cette entreprise qui souhaite s'installer. Alors après, éventuellement, on peut agrandir ou pas. Mais si des activités disparaissent ou s'en vont, eh bien, on pourra aussi adapter la zone d'activité en enlevant quelques modules et éventuellement en en mettant d'autres ailleurs dans l'agglomération sur d'autres zones d'activité. Et si jamais l'activité, il n'y a plus d'activité sur la zone de Montfour, eh bien, on pourra, grâce à la réversibilité, permettre de retrouver, s'il le faut, un terrain naturel et agricole, et donc voilà, qui aura été en plus valorisé parce qu'on aura remoyé un bocal, etc., et on aura participé à cette valorisation. Pour finir, parce que c'est un projet qui, en fait, qui est en cours, là, la SIC est en train de se créer, eh bien là, voilà, je l'ai reçu ce matin, en fait, c'est un bulletin de souscription de parts sociales pour pouvoir participer au financement du projet par des parts sociales coopératives. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Et d'ailleurs, ce projet en fait, de développement local va plus loin que la zone d'activité parce que derrière, il y a une coopérative qui va aussi se créer et qui va permettre à la fois de répondre à des problématiques culturelles, documents d'habitants, d'épicerie, zone d'activité, habitat alternatif en coopération. Donc derrière, il y a un vrai projet politique de développement local sur ce bourg. Voilà.
Merci beaucoup, Rudy Château. Je propose à Pascal Madry et à Nathalie Lemarchand, restez ici tous les deux, comme ça on pourra engager le débat, y compris sur vos interventions, peut-être de réagir sur ce qu'ils ont entendu tout l'après-midi, dans un premier temps, et puis ensuite de débattre avec la salle.
On a entendu beaucoup de choses très, très diverses, donc l'exercice de la synthèse ne va pas forcément être très simple. Je crois que ceci étant dit, je crois qu'il y avait trois grands types de présentations, on va dire deux premières présentations plutôt macro, plutôt universitaires. Et par la suite, dans les solutions évoquées, moi je verrais deux grands registres, un registre plutôt sur l'immobilier et le foncier, et un autre sur les activités elles-mêmes, qu'est-ce que l'on peut envisager à la place des commerces dans les locaux vides. Sur l'aspect, on va dire, macro-universitaire, on a insisté sur la notion de crise structurelle. Je ne reviens pas sur mes propos. Nathalie a bien montré que le commerce, c'est une activité qui devait être intégrée dans une approche globale. Elle l'a inscrite au carrefour des transformations du secteur lui-même, des transformations sociales, économiques, spatiales. Si on ne réfléchit pas le commerce au carrefour de ces différents champs, on risque de ne pas saisir tous les enjeux. Moi, j'associe ça aussi à ce que certains économistes appellent les notions de régime urbain, de régime de production, de régime d'échange. Le commerce, finalement, c'est cette interface entre, pour dire les choses assez trivialement, ceux qui produisent et puis nous qui habitons en ville. Et parfois, cette interface, elle déraille, elle n'est plus tout à fait en phase avec nos modes de production et nos modes de vie. Peut-être qu'on est entré dans cette crise d'interface. Nathalie a beaucoup insisté aussi sur la dimension distractive comme une forme finalement un peu post-industrielle de notre commerce. Notre commerce se renouvellerait à travers cette dimension culturelle. Peut-être qu'il l'a connue autrefois et qu'avec nos grandes surfaces, avec nos magasins très rationnels, très fonctionnalistes, on a oublié cette dimension sociale et culturelle de l'échange. Et comme une forme de chose refoulée, tout ça ressort aujourd'hui. Et on a envie que de ça, c'est de, au-delà de la marchandise, de retrouver l'échange entre les hommes. Moi, je tempérerais ça avec le discount aussi, qui se porte aussi très, très bien. L'hyper-discount continue de se développer. Et ben, peut-être que le consommateur, il a la contradiction de ces deux mouvements, à la fois le retour du refoulé, d'une volonté d'enrichir le lien social à travers l'acte commercial. Et puis, en même temps, ben, on a toujours envie d'acheter des trucs pas chers et, si possible, proches de chez nous, quoi. Plus largement, ça interroge évidemment la place du commerce dans nos villes et en particulier en centre-ville. Ces centres-villes qui sont toujours au cœur de nos territoires, mais qui ne sont plus forcément au cœur de nos modes de vie. Eh bien, comment remettre les centres au centre? C'est un peu la question qui a traversé cet après-midi. Ça pour les aspects whoop. Alors après, si on rentre dans le concret, la dimension immobilière et foncière, on l'a abordé avec Soraya, avec Lana, on l'a abordé avec Amosphère sur des montages très innovants, mais j'aurais une petite remarque. Et enfin avec Maxime Bréard sur les boutiques. D'abord avec Lana, avec Nathalie, on a relevé que le sigle avait changé. Ce n'est plus l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, mais c'est l'Agence nationale pour l'habitat. On redore le blason. Ceci dit, à vous écouter, on était plus dans une problématique générale d'attraction des sites anciens, des centralités anciennes. Et j'ai l'impression que votre prochain sigle, ce ne sera plus l'habitat, mais les centres, les comment on les appelle, les quartiers urbains anciens. Enfin, j'ai trouvé une appellation de ce type à la Caisse des dépôts. Enfin bref, on voit bien que l'ANA est en train d'étendre ses compétences au-delà de l'habitat. L'ANA nous a dit que son action était inscrite dans le cadre d'une démarche de développement durable, patrimoniale, de renforcement de l'identité culturelle de ces centres qui sont au cœur finalement de notre identité d'urbain, mixité fonctionnelle, la vie collective, etc. Toutes ces dimensions. Je n'ai pas entendu parler trop d'économie. Ceci dit, vous allez vous y pencher puisqu'il y a une évaluation en cours. Et avec Nathalie, mais elle rebondira peut-être là-dessus, on s'est interrogé aussi sur le profil des publics, sur le profil des nouveaux locataires qui investissaient ces logements rénovés, réhabilités. Est-ce qu'on est dans le tout public ou est-ce qu'on est dans des phénomènes de gentrification que l'on peut constater dans certaines villes? On avait une interrogation là-dessus, vous pourrez peut-être nous répondre. En tout cas, à travers ce que vous nous avez présenté, moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir l'embryon d'une nouvelle politique de la ville, non pas celle des quartiers sensibles, mais de la ville au sens large du terme. Vous nous avez bien montré les différents leviers d'action et qui appelleraient aujourd'hui des actions beaucoup plus concertées. Vous avez beaucoup insisté aussi sur la nécessité de la cohérence de ces politiques villes avec ce qui se passe à l'extérieur, à l'échelle de l'agglomération. Ça vaut pour le logement, ça vaut pour le commerce, évidemment. Alors, avec Amosphère, on était sur des problématiques immobilières, donc l'économie circulaire qui rentre dans les logiques de l'immobilier. Moi, j'ai trouvé ça très original, j'ai appris beaucoup de choses à travers vos modes d'opérer. En même temps, ce que je vois dans ce que vous proposez, c'est un modèle de ville flexible. Alors, on connaît ça sur le marché du travail. Vous voyez où je veux en venir. Donc, vous êtes à la fois sur des valeurs très, très modernes, qui sont celles de la coopération. J'ai bien aimé aussi cette logique d'organiser l'offre de logement à l'échelle intercommunale. Vous parlez de logique de bourse, je crois, de bourse de logement. Et vous outrepassez finalement les logiques concurrentielles qui, aujourd'hui, n'ont pas porté forcément leurs fruits en termes d'optimum social. Vous organisez d'autres modes de faire coopératifs. Mais en même temps, derrière tout ça, il y a de la flexibilité. Et si je prends le parti, c'est rare en ce qui me concerne, des propriétaires, investisseurs, un promoteur immobilier, quand il investit dans un bien, c'est avec l'idée que celui-ci ne soit surtout pas réversible, que celui-ci soit durable, pérenne, pour que derrière, la rente puisse être prélevée sur un horizon de long terme. Donc, est-ce que, à travers ce modèle, vous ne cassez pas finalement la logique du marché immobilier classique et quel est son avenir, surtout quand on voit que finalement vos financements sont quand même des financements participatifs locaux, que vos commanditaires sont plutôt des opérateurs publics et que les opérations que vous livrez sont plutôt pour des collectivités. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes hors marché. On ne vous a pas vu travailler, par exemple, pour une entreprise, pour un centre commercial, je caricature un peu le propos. Avec ma boutique à l'essai, toujours dans l'immobilier, et là, une initiative qui pallie finalement la déficience du marché, une sorte de béquille, sur le principe, moi qui m'a rappelé celui des pépinières commerciales, les pépinières d'entreprise, les incubateurs. Donc une initiative originale, on la voit sous d'autres formes dans les villes moyennes ou dans les grandes villes, portée par des SEM, enfin les anciennes SEM, maintenant les SPL. Je pense à ce que fait Paris, mais bon, Paris c'est un petit village pas très intéressant pour nous. Grasse, la ville de Grasse, vous avez une SEM qui a acquis une trentaine de locaux dans son centre ancien et qui les loue en faisant du portage comme ma boutique à l'essai. Voilà. Derrière toutes ces opérations, que ce soit l'ANA, ces modes d'intervention, que ce soit l'ANA, que ce soit votre agence, que ce soit ma boutique à l'essai, moi je me pose la question du financement, c'était aussi votre question. L'ANA, c'est du financement public, alors même si les propriétaires mettent, mais on est sur un effet multiplicateur qui vient du public. Je l'ai dit un peu pour votre coopérative. Et puis ma boutique à l'essai, là encore, on voit que le financement, il vient des collectivités. Donc ce sont les collectivités au secours des collectivités. Et je repose la question, où est le marché dans cet horizon-là? Faut-il le marché? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne le vois pas dans ces trois interventions. Vous pourrez me contredire ensuite. Hein. Ce sont des questions. Les activités, donc ça c'était le premier volet foncier immobilier. Ensuite, on a eu d'autres présentations qui, elles, concernaient davantage le type d'activité que l'on pouvait glisser dans ces locaux vacants. Alors avec Châtellerault, d'abord, une école, mais là d'ailleurs c'est encore une initiative publique, hein. Une école qui réinvestit les locaux vides et avec l'art, qui convoque l'art pour réanimer les centres-villes. Ben, on rejoint ton approche du commerce qui n'est pas que de l'échange marchand. On est aussi dans la culture et dans le social, dans le lien. Donc des vitrines, pas que pour des commerces, des vitrines aussi pour d'autres activités. Et ça m'a fait penser à d'autres initiatives. Si vous allez à Murat, vous avez un centre-ville avec 50% de vacances, mais ça ne se voit plus parce que les vitrines ont été réutilisées par la municipalité pour y exposer le savoir-faire des associations locales. Donc vous avez l'office de tourisme, telle association, etc., qui ont mis en valeur ces vitrines. Et finalement, eh bien, vous pouvez déambuler et découvrir des choses, quand bien même ces vitrines n'ont plus de produits à vous offrir. En Allemagne, je ne sais plus quel est le nom de cette commune, mais vous avez une troupe de théâtre itinérante qui joue dans les différents locaux vides. Et ça crée, alors ce sont des scènes qui sont totalement improvisées, mais ça crée une attractivité qui attire du monde dans la région. Voilà. Avec cet exemple de Châtellerault, c'est une nouvelle mise en scène de la cité qui nous était proposée et une ville qui en son centre ne réserve pas cet espace central, principal, uniquement pour exposer des marchandises, mais pour exposer d'autres choses, peut-être d'autres valeurs qui peuvent faire la cité de demain. Enfin, on peut en tout cas se mettre à le rêver. Et avec ma toupie volante, donc la ludothèque mobile, on était de nouveau dans... Là, pour le coup, on était chez Nathalie aussi. Hein, alors, commerce, non, mais les activités distractives, le jeu, l'animation. Moi, j'ai beaucoup... j'ai été sensible aussi à l'aspect social. Vos images le montraient très fortement, l'aspect de brassage entre les générations, notamment les générations, mais pas seulement. Et finalement, c'est un peu ça qu'on demande à la cité aussi, la cité de la diversité.
Et il y a un autre aspect très moderne dans l'activité que vous proposez, c'est que le commerce, jusqu'à présent, c'est plutôt une activité de... J'espère qu'il n'y a plus de commerçants, ils ont dû partir. C'est un peu une activité de feignant, en fait. Vous posez et puis vous attendez que le consommateur vienne. Et c'est d'ailleurs ça la grande réussite du commerce moderne, c'est de nous faire faire le travail logistique de l'approvisionnement, du stockage dans nos placards, etc. Vous, vous offrez un service supplémentaire, c'est que vous vous déplacez vers les publics. Et derrière ça, c'est la question de l'accès, de l'accès aux biens, aux services, etc. Et aujourd'hui, dans les petites villes, dans les centres-bourgs, elle est cruciale, cette question-là, parce qu'on s'aperçoit que avec l'étalement urbain, avec l'émiettement urbain, les Français habitent de plus en plus loin des centres-villes, des périphéries où se concentre aujourd'hui l'offre commerciale. Ben vous avez une solution très moderne, c'est vous êtes trop loin, ben je viens. Voilà. Et c'est peut-être ça aussi le commerce de demain, c'est un commerce qui revient au service de son public, même si vous n'êtes pas dans une activité commerciale pure et dure. Voilà, alors... là où peut-être on a échoué cet après-midi, c'est que qu'est-ce qu'on met à la place d'un commerce vide ? On a trouvé plein de solutions, mais tout sauf du commerce. Donc est-ce que le jeu, le distractif, remplacera demain le commerce pur et dur ? Je n'en suis pas si sûr. Et il reste encore à trouver d'autres solutions pour résoudre complètement cette crise des centres-villes. Voilà mes quelques remarques.
Merci.
Formidable. Si, je vais juste ajouter de formidable. Donc, on s'était mis d'accord. Pascal a commencé, elle a pris toutes ses notes. Donc, je savais qu'après, pour moi, ça serait très court et très synthétique. Moi, je dirais juste, avec tout ce que j'ai entendu, ce qui m'est venu à l'esprit. Alors, d'abord, la question distractive, effectivement, on l'a bien entendu. Vous l'avez évoqué tout ça de différentes façons. Et il faut quand même se rappeler aussi que cette dimension un peu ludique du commerce, ce sont aussi les grands magasins qui l'ont innové. Dès le 19e siècle, l'innovation, l'ouverture d'un grand magasin se faisait avec du concert. Il y avait pendant une semaine, il y avait des concerts dans le magasin. C'est eux qui ont innové aussi l'espace de restauration pour faire venir donc les clientes, les conserver plus longtemps, qu'elles puissent déambuler. Il y avait des spectacles aussi, on donnait des spectacles donc à l'intérieur de l'espace commercial. Donc cette alliance du commerce, de la consommation et de la distraction, elle est mise en œuvre dès le 19e siècle. Donc c'est le début d'un commerce qui peu à peu va s'industrialiser, certes avec l'industrie, puis après avec la grande distribution, mais pas seulement, pas que je dirais. Et vraiment, aujourd'hui, c'est ça qu'on sent. Et c'est un peu ce que j'ai senti aussi à travers ce que vous avez évoqué, la toupie volante, l'atmosphère, etc. Et puis l'idée un peu du zapping. On ne l'a pas traité vraiment, mais l'idée de voir c'est réversible, c'est ma boutique à laisser. Si ça marche, ben on va continuer. Si ça marche pas, ben on va essayer de changer. Donc un peu cette idée donc du zapping ou cette idée du changement. Et avec la distraction, je disais tout à l'heure, un peu se sentir, on n'est pas ailleurs nécessairement, mais on n'est pas vraiment dans la même temporalité, on n'est pas dans un quotidien qui peut être pesant et contraignant. Et donc c'est un peu ce que j'ai retrouvé dans ce que vous avez évoqué, aussi la réversibilité. Alors avec l'ANA, effectivement, finalement, c'est intéressant et de dépasser la question du logement, donc une vision un peu plus large que celle du logement qui a été celle avec l'habitat. Alors ça me rappelle les derniers travaux aussi sur l'habité, hein, donc dans un certain nombre de colloques universitaires, etc., et en géographie notamment. On s'est beaucoup questionné sur l'habité, au sens où justement l'habité, c'est pas seulement l'habitat. C'est pas seulement la résidence, c'est pas seulement cette fonction d'habiter, c'est aussi donc tout ce qui est autour.
Et la localisation qui apparaît en premier dans les motifs de choix.
Oui, cette localisation et son environnement. Et donc ça me paraît important. Bon, il y avait une question que j'avais à l'esprit, alors par rapport à l'ANA et donc par rapport à ces centres anciens, il existe les PARECA, je sais pas si vous travaillez avec, hein, donc. Certain nombre d'entre vous, des élus ici, doivent le connaître. Hein, c'est cet établissement public qui vise justement à la réhabilitation du commerce. Donc c'est vraiment une spécificité française. Donc ça a un peu plus de 20 ans maintenant, 95. Hein, donc, et c'est vraiment avec cet objectif de la réhabilitation des centres commerciaux, du commerce. Donc voilà, il y a une préemption. Enfin, on pourrait revenir sur
la structure n'a pas le temps. Et puis, il y avait une autre question. Alors, je vais vous faire une... Enfin, ça m'est apparu et c'est un peu ironique. Mais en fait, vous avez réinventé le comment je t'ai dit ? Non ? Non, oui, c'est ça, l'Algeco, où enfin vous avez réinventé donc le bâtiment donc à usage ponctuel, enfin donc et pas pérenne, voilà. Non, les préfabriqués, voilà. Vous avez réinventé le préfabriqué, mais durable.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est tout ce que j'avais.
Ok. À dire. Peut-être avant que vous ne répondiez, on prend peut-être quelques questions, comme ça vous répondrez s'il y en a quelques-unes, et vous toujours la même règle, on se présente.
Oui, Frédéric Laurent, directeur de l'agence technique départementale. Donc en fait, je voulais rebondir sur ce que disait Pascal Madry tout à l'heure, là, qui posait la question où est le marché, hein, en citant votre expérience. Et pour vous paraphraser, je dirais où est le contrôle du marché, parce que en vous écoutant tous, c'est extrêmement intéressant, là, vos interventions, et on a l'impression qu'il y a beaucoup de tentatives, de recherche de solutions pour essayer de répondre à un problème qui est constaté au niveau des centres-villes de beaucoup de communes, moyennes ou grandes, et vous mettiez très bien en valeur au départ la surcapacité des surfaces commerciales. L'urbanisme est extrêmement contraint à beaucoup de niveaux, et on a l'impression, à Poitiers notamment, mais comme dans beaucoup d'autres endroits, que les milliers de mètres carrés de surfaces commerciales grossissent à vue d'œil sans aucun contrôle, et qu'on se retrouve effectivement à devoir mobiliser beaucoup d'énergie, de savoir-faire et de finances publiques pour essayer de pallier à ces centres-villes qui deviennent vides. Est-ce qu'il n'y a pas là une manière beaucoup plus simple de résoudre le problème, qui serait de dire halte là. Cette surcapacité surface commerciale, il suffit très simplement de la contrôler comme on contrôle toutes les autres formes d'urbanisme dans tous les domaines.
Encore une ou deux questions, peut-être on ramasse s'il y en a deux.
Sur le contrôle, on pourrait ajouter quand même que les lois qui avaient été prises il y a 20 ans en arrière et qu'on commence à imposer dans nos ruralités, nous conduisent dans les ruralités à geler des terrains pour permettre à des zones urbaines de développer justement ces zones commerciales inoccupées.
Merci. Juste une ou deux petites réflexions. Je voulais revenir sur les Algeco. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, j'ai été, c'est des Algeco de luxe. J'ai été quand même intéressée, même, vous allez me le dire, si le coût doit être quand même très nettement supérieur de ces constructions qui sont réversibles. Absolument pas. C'est une idée peut-être qu'il faut creuser dans un certain domaine. Je n'ai pas d'idée précise, mais ce n'est pas inintéressant. Et je ne les vois pas comme des Algeco en tout cas. Mais moi, c'est le coût qui me... Parce que pour les collectivités, c'est toujours le coût qui préoccupe. J'aurais autre chose.
Patrice Pinault, maire de Thouars. Vous n'avez pas évoqué, ou en tout cas brièvement, la part du e-commerce dans tout ce phénomène, puisqu'effectivement, il progresse chaque année de 10% pratiquement. Et est-ce qu'il faut encore continuer à se battre pour le commerce traditionnel, alors que peut-être dans une décennie, il sera réduit à une portion plus faible. C'est pas mon avis, mais je pose la question. Et puis d'autre part, c'est vrai que là, on a eu plutôt des réponses cet après-midi palliatives, en fait, hein, pour occuper les boutiques vides. Bon, est-ce que le marché a encore sa place, et notamment à côté du commerce distractif? Et comment peut-on lever les freins qui existent aujourd'hui? D'une part, à la fois des espaces commerciaux non adaptés à l'accueil des commerces modernes, et notamment d'enseignes qui veulent s'installer dans les centres-villes, et d'autre part, la réticence d'un certain nombre de propriétaires qui croient toujours avoir dans leur portefeuille, finalement, un trésor, alors que les murs ne valent plus rien. Voilà ces problèmes qui se posent aussi aujourd'hui.
Je vous laisse peut-être répondre, et puis on pourra prendre quelques autres questions.
Alors...
Oui, donc il y a une différence entre provisoire, Algeco et réversible. La réversibilité, c'est une construction qui est exactement comme une autre, qui a toutes les qualités, qui répond à toutes les normes et les réglementations, sauf qu'elle présente en fait la spécificité de pouvoir donc constructivement être déplaçable, démontable, et ça c'est inscrit en fait dans le process constructif. Et là, justement, j'avais gardé un petit peu des images derrière, et qu'aujourd'hui, une construction réversible, c'est une vraie construction, un vrai habitat qui peut aussi s'adapter à son contexte, à une petite échelle. Ça peut être beaucoup plus gros aussi. Ça, c'est le pavillon français qui est à l'Expo Universal de Barcelone. C'est un équipement entièrement démontable. Là, on a un concours donc Solar Décathlon de maisons solaires innovantes qui a eu lieu donc dans le parc de Château de Versailles. Et là, c'est des maisons à pointe de la technologie. Le cahier des charges des concurrents, c'était un mois et demi pour monter la maison. Il y avait deux mois ou trois mois d'animation. Et je crois qu'il y avait trois semaines pour la démonter. Et le cahier des charges du bureau du VRD, hein, de l'entreprise de VRD, c'est une remise à l'État identique. Et tout a été mis à l'identique à la fin. Voilà. Et sachant qu'on peut s'appuyer en plus sur des technologies... Alors, rigolez, mais aujourd'hui, les technologies vont dans le sens de la réversibilité et de l'autonomie. Que ce soit dans les modes constructifs, que ce soit aussi dans la capacité à être autonome et à produire de l'énergie, etc., et donc lié au développement durable. Donc on est vraiment sur, on va dire, un contexte hyper favorable, technologiquement parlant, et en plus, un besoin, à une demande et un marché qui est énorme, parce qu'on est sollicité aujourd'hui de toutes parts par rapport aux propositions qu'on peut donner. Pas du tout. Pas du tout. Tout à fait, tout à fait. En fait, on est sollicité sur des besoins particuliers, qu'ils soient en périphérie ou en centre-bourg. Si on prend l'exemple de Montflour, de la Boissière, par exemple, et pour le cas des logements des personnes âgées, aujourd'hui, les personnes âgées habitent dans des maisons qui ne sont pas adaptées à leur niveau d'autonomie. Il y a des marches, etc., c'est la vivure, c'est dangereux. En même temps, du coup, leur solution, c'est l'EHPAD. Mais l'EHPAD, c'est à 10-20 km, donc ils quittent le logement. Là, l'idée, en fait, via la coopérative, en plus, c'est que en fait, les personnes âgées mettent leur logement dans la coopérative, en part sociale, et du coup, récupèrent un logement réversible au centre-bourg, donc là, du coup, parce que là, on est dans le centre-bourg, et permettent de vivre le plus longtemps possible dans ce village-là. Donc ça, c'est l'exemple des personnes âgées, mais aussi, on a un exemple aussi... après, je vais arrêter, parce que j'en ai beaucoup. Mais là, c'est le... Ouais. Juste celui-là, parce que c'est intéressant. Donc là, on est donc en milieu, on ne voit pas, mais c'est en milieu urbanisé, plutôt pavillonnaire. Là, le besoin, c'est une famille qui a peu d'argent, mais qui a un crédit, et qui a un besoin de deux chambres en plus, parce qu'ils ont quatre enfants. Ils ne peuvent pas se le payer. Donc là, l'idée, c'est de leur proposer, donc, pendant 10 ans ou 15 ans, le temps que les enfants restent à la maison et puissent après partir. Donc un module et le montage coopératif, c'est ils restent propriétaires de leur maison et du terrain. La coopérative est propriétaire du logement, du coup, du terrain. Et on vient installer avec le financement de la vente du terrain et le financement participatif, un module pour un temps, pendant 10 ou 15 ans, le temps de leurs besoins. Quand ils n'ont plus besoin, on enlève le module, on le redonne à une autre, ou on recrée un projet dans un autre endroit. Et la famille reste propriétaire de leur terrain, de leur maison.
Pour reprendre aux autres questions, donc, ça soulève d'autres questions, mais on va pas avoir le temps. Par rapport à ce que vous évoquiez sur la question, il y a eu plusieurs fois la question du contrôle des surfaces commerciales. En quelque sorte, c'est un peu ce qu'avait tenté de faire la législation française avec l'urbanisme commercial, hein, c'est une particularité française, l'urbanisme commercial. Hein. Donc, mais à côté de ça, le commerce en France, donc, comme dans un grand nombre de pays aujourd'hui, j'évoquais la fin de l'Union soviétique tout à l'heure et donc la fin du commerce d'État, mais le commerce, ça relève quand même de la libre entreprise en France. Et en France, c'est depuis la loi Chapelier, donc avec la fin des corporations, des guildes, etc. Donc, le commerce relève de la libre entreprise. Et c'est ce paradoxe donc, d'une activité qui est à la fois une activité économique qui relève de la libre entreprise et une activité qui est un élément majeur de nos villes, de l'animation, de la vitalité de nos villes, donc qui fait que pour l'instant, on n'a pas encore réussi, même s'il y a eu les tentatives, même si c'était Charlier qui voulait faire ça, donc à faire rentrer donc dans le code de l'urbanisme général, le code de l'urbanisme commercial.
Ceci dit, je pense que ce serait une grave erreur, parce que, en quelque sorte, le commerce est déjà dans le code de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on autorise des projets au nom de principes qui sont ceux de l'aménagement du territoire, ceux de la protection du consommateur, et de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère des commerces. Et donc, en quelque sorte, on instruit déjà ces mètres carrés selon des principes d'urbanisme. Or, le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'urbanisme, c'est un problème de concurrence, c'est un problème économique. Or, sur ce registre-là, effectivement, la législation nous interdit d'intervenir. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une collectivité, elle mesure l'opportunité d'un projet par rapport à ces critères-là, sans idée des besoins réels de son territoire. Donc, alors, pour moi, la première étape, elle passe par là. Avant même de pouvoir imaginer un changement législatif, c'est quels sont les besoins réels des territoires. Quels sont nos clients, et nos clients résidents et nos clients de passage? Quelle est la demande de consommation qui colle à ce public? Quelle est aujourd'hui l'offre qui répond à ces besoins, et éventuellement l'offre un petit peu obsolète qui pourrait justifier un renouvellement, une requalification? Mais on n'en est même pas là. Aujourd'hui, les projets sont instruits en fonction des opportunités d'emploi, etc., qu'ils peuvent apporter. Déjà, une connaissance du territoire. Et j'en profite, tant que j'ai le micro, pour répondre à la question de l'e-commerce. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Donc, effectivement, le commerce progresse très vite, mais chaque année, il progresse de moins en moins vite. Et donc, si on trace la courbe, en fait, on est déjà sur un canal qui est en train de, non pas d'arriver à maturité, mais qui tend vers son plafond. Et si on fait un petit calcul statistique de projection, on peut penser que d'ici 2020-2025, ce canal pourrait être arrivé à maturité. Ça, c'est un raisonnement très, très statistique, toutes choses égales par ailleurs. Voilà. Alors, pour ce qui après, l'aspect plus concret, moi, quand je regarde les enseignes qui sont adhérentes chez nous, comment elles utilisent Internet? En fait, aujourd'hui, elles cherchent à l'instrumentaliser de telle manière que leur patrimoine immobilier ne se dévalorise pas. Les Darty, les Fnac, etc. Leur enjeu, aujourd'hui, Internet, c'est quoi? C'est 10-12% de chiffre d'affaires de ces enseignes. Elles ne veulent surtout pas que demain, Internet représente 50% de leurs ventes, parce qu'une grande partie de la valeur de ces entreprises repose sur leur patrimoine immobilier, sur les emplacements. Et la stratégie de ces enseignes aujourd'hui, c'est de... C'est le cross-canal, croiser tous ces canaux de telle manière que Internet apporte des flux en boutique. Et je pense qu'on va aller vers cette tendance-là, c'est-à-dire une hybridation des canaux, et qu'on n'est absolument pas sur une révolution, sur un canal qui va tout renverser. La grande révolution d'Internet, pour moi, c'est qu'elle a cassé un monopole, celui de la boutique, comme outil de gestion des flux monétaires, de transactions, d'informations sur les produits. Ça, c'est fini. Maintenant, on a d'autres interfaces qui nous permettent de nous renseigner sur les produits, de nous les faire livrer, etc. Donc oui, c'est une vraie révolution de ce point de vue-là. Ça va conduire à quoi? À ma première courbe. C'est-à-dire que demain, on va encore avoir besoin d'un petit peu moins de magasins. Et on va être dans un trend qui est un trend historique. Mais je ne pense pas qu'on sera sur une rupture.
Et si je peux me permettre d'ajouter par rapport à ce que tu dis, un autre élément très important qu'a amené le e-commerce, à mon avis, c'est la prise de conscience de la dimension logistique, donc par la livraison. Et donc, de ça a remis en évidence, et avec force, donc, puisque c'était quand même déjà dans la loi SRU, donc ce dernier kilomètre. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de municipalités qui réfléchissent à la capacité de livrer donc, des rues et pas nécessairement que des enseignes.
Alors, et ça me permettra de rebondir et de répondre à la dernière question sur la question des baux. Aujourd'hui, si la FNAC et Darty investissent tant dans le développement des ventes sur Internet, c'est parce qu'il leur coûte moins cher. Enfin, ça leur coûte moins cher de réaliser 1 euro de chiffre d'affaires sur Internet qu'en boutique. Pourquoi? À cause des coûts immobiliers. Et donc, si demain vous arrivez à maîtriser les coûts, enfin les loyers, à discipliner ce marché qui est dans une sorte de bulle aujourd'hui, eh bien, vous allez rendre le commerce physique vous allez rendre de nouveau le commerce physique compétitif par rapport à Internet. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut taxer Internet, ça, mais aujourd'hui, on a fait un choix qui, effectivement, donne un sérieux avantage concurrentiel à Internet, alors qu'il n'est pas forcément justifié. Et derrière, c'est donc la question plus générale de la maîtrise des baux. Et aujourd'hui, les collectivités ont malheureusement très peu d'outils pour discipliner des propriétaires qui, effectivement, se placent plutôt en situation de rentier. Et puis, le jour où il y a trop de vacances, c'est trop tard et on ne peut plus rien faire.
Madame Daou, peut-être.
Oui, juste pour répondre aux questions qui ont été posées à l'ANA, donc la question de l'économie. Alors j'en ai parlé un peu, j'en ai pas parlé beaucoup en effet. J'ai surtout insisté sur le fait qu'on allait faire une étude justement qui allait nous permettre de mesurer la création de valeur sur un territoire après un projet, parce qu'en effet, on est très limité. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sait faire, c'est mesurer l'impact d'un euro de subvention. On sait qu'un euro de subvention injecté dans un territoire, c'est 3 euros de travaux de réhabilitation, ou 4 euros, selon les cas, voire 5 euros. Et donc, on connaît les chiffres pour l'économie de l'artisanat local, mais on ne sait pas aller au-delà. Et ce que l'on voudrait faire, c'est essayer de mesurer globalement toute la création de valeur générée, parce que quand on réhabilite, ou quand même on réhabilite les commerces, ben, c'est une autre économie qui se met en place, et que ça a aussi un impact, et qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Ensuite, sur la question du risque de gentrification, c'est-à-dire donc de la réhabilitation, et qui peut amener l'éviction de certaines populations modestes. Je tenais juste à dire que les conditions pour l'octroi des subventions de l'ANA, ce sont des conditions sociales, c'est-à-dire qu'on finance sur des critères sociaux justement pour maintenir ou faire venir des ménages modestes, mais tout en maintenant une mixité sociale, c'est-à-dire qu'un secteur où on n'aurait que des ménages trop en précarité, ça n'aurait pas non plus d'intérêt globalement pour la vie collective. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de la mixité sociale, mais en essayant de maintenir les populations modestes en place, voire d'en faire venir d'autres lorsqu'on est sur des territoires qui sont un peu plus riches. Et enfin, sur la question du marché, enfin où est le marché, parce que l'action publique, c'est pas d'agir contre le marché, enfin il y a un marché, il y a une économie. L'action publique, c'est de pouvoir agir pour réguler, ajuster, corriger. On va pas transformer un marché. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est identifier les points noirs et se dire on va peut-être aider à pas inverser la machine, mais à combler un vide. Et quand on intervient sur les commerces, avant d'agir sur les commerces, alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de présentations de éphémères entre guillemets, c'est-à-dire que en effet c'était ma boutique. C'est très bien, moi je trouve que c'est des actions très intéressantes, notamment pour gérer la transition. Parce qu'en fait, avant de requalifier, vous avez des espaces vacants. À terme, vous aurez peut-être des espaces occupés. Et en attendant, il y a des choses qui se passent. Et ça fait notamment partie des actions de gestion urbaine de proximité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de collectivités qui, lorsqu'elles s'engagent dans une requalification de quartier, on sait que c'est des temps qui sont très longs. C'est 5, parfois 6 ans. En attendant, il faut faire vivre le quartier. Et ces actions-là, je trouve que c'est des actions très, très intéressantes, justement, pour gérer la transition. Et ensuite, sur finalement l'occupation finale de ces espaces ou de ces commerces, au bout des 5 ans, c'est possible, mais il faut au départ un diagnostic qui soit pertinent et qui soit cohérent et qui soit précis. Je pense que la difficulté aujourd'hui que rencontrent les collectivités dans la mise en œuvre d'un projet de requalification commerciale, c'est des diagnostics qui ne sont pas très bien faits. On ne sait pas quels sont les besoins des habitants, donc on va chercher, une super boutique de vêtements de vêtements à la mode. Or, c'est pas ça le besoin des ménages sur le quartier. Et le ménage du quartier, qu'est-ce qu'il veut? Il veut peut-être, on parlait tout à l'heure du boucher, il veut juste peut-être un petit boucher, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, dans les opérations que nous finançons, on travaille avec des acteurs qui font des diagnostics très précis, notamment dans le cadre des enquêtes auprès des habitants. Il y a des enquêtes très précises auprès des habitants sur quels sont leurs besoins, où est-ce qu'ils font leur commerce, où est-ce qu'ils vont faire leurs achats aujourd'hui, pourquoi ils vont à tel ou tel endroit, s'il y avait de nouveaux commerces dans le quartier, est-ce qu'ils iraient, et si oui, pour quel coût, etc., etc. Ce qui permet de construire un modèle aux collectivités locales. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on réussira à 100%, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu de méthodologie qui est important. Alors, bien sûr, avec les contraintes de marché qui existent, mais il y a quand même un enjeu de méthodologie sur la définition du projet commercial.
Si je peux me permettre, sur les enquêtes consommateurs, moi, j'ai fait 15 ans de conseil en immobilier, en urbanisme commercial, et j'en suis sorti, notamment pour cette question-là. Quand vous interrogez des consommateurs d'un quartier sur le type de commerce qu'ils souhaitent, Vous allez avoir une liste, une très belle liste, très, très diversifiée. Vous regardez ce qu'il y avait dans le quartier 15 ans avant, vous avez exactement cette liste-là. Vous n'êtes pas sur l'expression d'un besoin, vous êtes sur l'expression d'une nostalgie, d'un souvenir. Vous demandez à des consommateurs de nouveaux arrivés dans un quartier. Alors là, pardon, c'est un exemple parisien, Sedaine-Paupincourt, le 11e, le quartier qui se gentrifie le plus aujourd'hui. Je ne vais pas être dans la caricature. Qu'est-ce qu'il arrive dans l'expression des besoins de ces ménages, de ces marchands de jouets en bois, épiceries bio, etc., restaurants brunch, etc. C'est un peu comme si on vous demandait, est-ce que vous voudriez un théâtre à côté de chez vous, un stade, une piscine ? Bah, vous allez cocher oui. Est-ce que vous allez les fréquenter ? Non. Demandez à un ménage qu'est-ce qu'il souhaite comme commerce dans son environnement, c'est intéressant, ça donne une direction, mais attention.
Mais ce n'est pas la seule question qu'il faut poser.
Bien sûr.
La question du type de commerce, en effet, mais c'est pour ça qu'après, la deuxième question qu'il faut poser, c'est quelles sont vos dépenses ? Combien vous dépensez par semaine ? Et ensuite, bah, si ce magasin s'ouvre, à quelle fréquence vous irez ? C'est-à-dire, si vous posez la question simplement de « oui, bien sûr, j'ai la nostalgie du jouet en bois, mais par contre, le jouet en bois, je l'achèterai quand ? Je l'achèterai une fois tous les deux ans pour faire plaisir à mon neveu. » Voilà.
Je veux dire, c'est évidemment le commerce, une question très complexe et on projette d'autres choses que les.
Je pense qu'il y a des enjeux de méthodologie. Je ne dis pas qu'on sait faire parfaitement les diagnostics et définir des projets, mais je pense qu'il y a un vrai travail collaboratif avec l'ensemble des partenaires.
Vous faisiez appel à des consultants par ailleurs.
Voilà, en plus par ailleurs, pour partager ces méthodes de travail.
Et après, juste un petit détail, est-ce qu'on consulte uniquement les habitants ou est-ce qu'on les fait participer aussi au projet ? Ça peut peut-être changer les choses.
On ramasse les dernières questions parce que l'heure tourne et après on libère.
Oui, juste pour revenir à l'avis, je suis complètement d'accord avec vous parce que si on interroge les gens, par exemple en ce moment, tout le monde regrette le petit commerce. Ils aimeraient tous avoir une boulangerie, une boucherie, une petite épicerie à côté de chez eux. Mais finalement, ils vont faire comme tout le monde, ils vont au supermarché et c'est tout à fait dommage. Nous, à Poitiers, on le voit bien, les petits commerces de bouche, etc. ont beaucoup de difficultés à exister. On ne s'est pas posé du tout la question de l'accessibilité des centres-villes et je pense que c'était important. On n'a plus le temps maintenant du stationnement, du coût de stationnement, la circulation, etc. Donc ça sera peut-être l'objet d'une autre, réunion, mais peut-être vous pourrez me répondre et j'aimerais avoir votre avis. Et puis je voudrais reprendre ce que vous avez dit, monsieur Madry, puisque je ne suis pas tout à fait quand même d'accord avec vous à un moment donné, et je vous reprends, les collectivités ou les maires sont naïfs ou opportunistes. Je ne suis pas maire, et je suis présidente du groupe d'opposition, alors je ne suis pas décideur, malheureusement, ça viendra peut-être. Mais je crois qu'ils n'ont rien de naïf, les maires opportunistes, peut-être, mais si on fait de la politique, même vous êtes opportuniste dans votre métier, et puis tout le monde, de toute manière. Mais naïfs, sûrement pas. Et puis, ils sont pressés par la demande, pressés par les habitants, par le citoyen. Ils doivent rendre compte à la fin de leur mandat. Donc, je pense que là, vous avez été un petit peu dur avec les politiques. Puis, juste, je termine, parce que je sais, je suis bavarde en plus. C'est plutôt des projets. C'était des projets politiques plutôt qu'économiques. Vous parliez de notre galerie dans le centre de Poitiers qui a été créé du temps de l'autre maire, monsieur Jacques Centreau. Mais regardez aujourd'hui si, par exemple, le Monoprix n'existait pas dans le centre-ville. Par contre, il faut les limiter, ça c'est certain. Mais s'il n'existait pas, mais c'est toute cette manne qui irait de plus à l'extérieur du centre-ville de Poitiers. Donc c'est compliqué aujourd'hui pour les politiques, justement. Mais...
Alors, bavard, opportuniste et naïf, non, c'est pas... Voilà.
Juste, par rapport à la question des élus, donc moi je dirais, vous avez évoqué les consommateurs qui avaient une vision nostalgique, mais les élus l'ont aussi. Et souvent, donc dans les interventions que je peux avoir par rapport aux élus, ils ont souvent une vision aussi erronée de la population qui réside sur leur territoire et de leurs besoins en termes de consommation. Par rapport, par exemple, J'entends souvent, donc par rapport au marché, par exemple, ou par rapport à l'équipement de la personne, donc essayer de limiter ce qu'on va appeler le commerce culturel ou ethnique. Mais c'est pourtant une réalité dans beaucoup de villes aujourd'hui. Et donc, c'est une clientèle qui a des besoins aussi, donc de consommation.
On ramasse quelques questions.
Oui, bonsoir. Moi, c'est Tristan Caillé.
La question, c'était le monsieur qui est intervenu sur l'explosion des mètres carrés de surface commerciale. Ma question, c'était plus pour les élus politiques. Quels sont les outils, en fait, de lobby, tout simplement, pour réguler ces mètres carrés? Et puis après, j'avais une autre question qui est beaucoup plus technique. C'est sur les atmosphères, sur comment on travaille avec les documents d'urbanisme, les permis de construire, donc qui sont réversibles. Comment ça me fout?
Oui, par rapport aux freins dont on parlait tout à l'heure, notamment sur les baux, il y a aussi un autre frein, c'est qu'à partir du moment où un quartier connaît ce phénomène effectivement de déshérence à la fois en termes d'habitat et de commerce, il porte une image qui fait que même s'il existait un porteur de projet dans ce quartier, les banques et les banquiers sont les premiers à les inciter à ne pas faire le projet sous prétexte que ce projet n'est pas viable en fait.
Merci d'être venu aussi loin, Monsieur Doniol. Jean-François Vergniaud, habitant de Poitiers, du centre-ville. Là, je vais m'exprimer en tant qu'observateur des centres-villes, non simplement celui de Poitiers, mais on va prendre La Rochelle ou n'importe quelle ville. Une question aussi a été abordée par Madame Lemarchand sous le thème de l'habiter, l'habitus. Alors, il y a encore des commerçants dans cette salle, il y en avait encore davantage tout à l'heure. Sans leur jeter la pierre, une simple question, je constate qu'une minorité des familles, des ménages, des travailleurs, des professionnels, des centres-villes, je les vois très peu les dimanches, les centres-villes sont vides, je ne vois pas d'enfants, très peu d'enfants jouer sur les places et les rues. Donc ce sont aussi des consommateurs des centres-villes et des commerces de centres-villes. Il y aurait probablement une réflexion à mener dans ce domaine-là.
Si vous voulez répondre à ces questions, et puis on en arrêtera peut-être à ce moment-là.
En fait, donc, si j'ai bien saisi, c'est par rapport à l'animation dominicale du centre-ville que vous posez la question, et donc des résidents des centres-villes. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un retour au centre-ville. Enfin, ça fait déjà quelques. Enfin, c'est pas le recensement de l'INSEE. Le dernier recensement de l'INSEE a confirmé une tendance que celui d'il y a 8 ans avait soulignée. C'est qu'on a un retour vers les centres-villes ou vers les quartiers péricentraux. C'est ce qui accompagne la gentrification sociale et commerciale que j'évoquais. Donc, de ménages qui étaient partis dans la périphérie, dans le périurbain, avec leur famille, les enfants sont grands, sont partis, et donc il y a un retour qui se fait. Pas seulement cependant, hein, quand même, je souligne le fait qu'aujourd'hui il y a des études qui montrent qu'il y a un ancrage aussi dans le périurbain. Et donc les grandes surfaces aujourd'hui, c'est aussi du commerce de proximité, il ne faut pas l'oublier. C'est du commerce de proximité pour une partie des résidents de plus en plus nombreux encore, hein, donc qui vivent à la périphérie. Mais donc il y a un retour. Hein. Je parlais tout à l'heure du zapping, hein, on a vraiment une grande diversité, une grande complexification donc des profils socio-économiques et démographiques à l'échelle des territoires, que ce soit des pôles urbains, que ce soit des espaces même ruraux, puisqu'on a plusieurs catégories d'espaces ruraux. On a le rural qui n'est pas loin de la ville, puis on a le rural profond, qui lui est vieillissant et désertifié en matière commerciale. Et donc on a un retour, donc, mais aussi on voit aujourd'hui un retour de jeunes ménages. Donc voilà. Alors le dimanche, on a fait des études, donc le dimanche, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a une fréquentation des espaces naturels de la ville, des parcs dans la ville ou des espaces périphériques naturels de la ville, donc par ces urbains. Donc, pour revenir sur la question du commerce et du commerce le dimanche, ce dont on s'est aperçu aussi, c'est que les plus grands demandeurs de l'ouverture du commerce le dimanche étaient les plus grands internautes de commerce. C'est-à-dire que plus vous faisiez du... c'est-à-dire que plus vous étiez consommateur sur Internet, en quelque sorte, pas forcément de consommateur financier, mais de consommateur de consommation, de produits, donc d'expérience, on va dire, l'expérientiel de la consommation, bah plus vous souhaitiez avoir la multiplication des canaux tout le temps, à tout moment. Et on avait deux étudiantes de master qui ont fait un master, l'une sur les Champs-Élysées, pardon, Champs-Élysées qui sont ouverts le dimanche et une autre sur les grands boulevards qui n'étaient pas encore ouverts le dimanche. Et les consommateurs sur les Champs-Élysées disaient que bah oui, c'était bien que ce soit ouvert, mais ils n'avaient plus de considération du jour de la semaine que c'était, du lundi au dimanche, c'était la même chose. Et ceux qui, à ce moment-là, n'étaient pas encore ouverts, répondaient sur les grands boulevards, disaient bah, qu'ils ne viendraient pas plus le dimanche qu'ils n'y venaient aujourd'hui puisqu'ils avaient autre chose à faire le dimanche.
Sur l'ouverture dominicale, on a, Procos, c'est 300 enseignes, on les a questionnées sur l'opportunité d'ouvrir ou pas le dimanche. La moitié est pour, la moitié est contre. On a énormément de mal à créer un consensus, à trouver un consensus auprès des acteurs. L'autre éclairage que j'ai sur cette question-là, c'est que dans les pays plutôt matures, comme la France, mature du point de vue de leur offre commerciale, quand on a cherché de la flexibilité du côté des surfaces pour étendre le marché, une fois qu'on a fini là-dessus, après on va sur le temps, effectivement, donc la question des horaires. Et donc dans les pays matures, on cherche un peu à pousser les meubles, à trouver encore un peu de place. Mais il y a d'autres exemples, et je pense notamment à, je crois que c'est la Tunisie, où en Tunisie, vous pouvez ouvrir tous les jours, je crois sur des plages horaires très, très, très étendues. Et aujourd'hui, les commerçants demandent la fermeture des commerces le dimanche pour pouvoir resserrer la rente et évidemment limiter les coûts d'exploitation. Donc, je pense que ce débat-là, on est loin de le refermer. Sur les banques, il y avait une question sur les banques en deux mots. L'immobilier de commerce, c'est un secteur très, très attractif pour les capitaux, mais pour un certain type d'opération, seulement pour un certain type d'opération. Donc, vous avez énormément de SIC, alors pas les SIC dont on a entendu parler, mais les sociétés immobilières d'investissement côté qui lèvent des fonds sur les marchés boursiers et qui font des opérations comme on peut en voir en périphérie des agglomérations. Donc là, vous avez énormément de capitaux qui ne savent même plus où investir. Vous prenez Amerson, qui est la troisième foncière d'investissement en centres commerciaux en France. Ils ont un fonds de 2 milliards d'euros dont ils ne savent pas quoi faire. Le problème de ce marché, c'est que donc il y a des capitaux pour investir, mais ils sont orientés uniquement sur de grandes opérations. Et dès que l'on entre dans ces mailles de territoire, on a ben voilà, il faut d'autres financements. Donc ce qui peut dissiper, en économie, hein, quand on veut diriger l'argent un peu autrement, il faut jouer sur les prix. Et on revient toujours sur cette question des loyers. Tant que ce marché sera un marché acyclique et juteux, les capitaux n'auront aucune raison de venir dans ce type d'opération. Donc c'est peut-être là qu'il faut agir. Et je pense que ça sera plus efficace qu'un urbanisme commercial plus raisonné.
Il y a quand même une remarque à faire derrière ce que vous dites. On ne mesure pas le coût des logements vides qui est prélevé sur la consommation. Parce qu'il faut le payer, hein, la rente, il faut la payer. Les hausses de loyer perpétuelles, il faut que quelqu'un les paye. Celui qui paye en sortie, c'est le consommateur. Donc en réalité, si on s'amusait à faire la mesure réelle du coût de cet investissement inutile, on se rendrait peut-être compte qu'au niveau de la collectivité, on a peut-être intérêt à mettre un frein et à répartir différemment la rente pour la rendre beaucoup plus active et beaucoup plus économiquement plus porteuse.
Mais Nathalie nous a dit où situer la question du commerce. Aujourd'hui, la question du commerce, elle est située uniquement dans le secteur de l'immobilier et de l'urbanisme commercial. C'est au maire de reprendre le pouvoir sur cette question et d'en faire un domaine de politique publique.
Pour répondre à la question réglementaire par rapport à la réversibilité, donc comme tout projet innovant, donc on bouge les lignes et donc on touche réglementaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réversibilité n'existe pas dans le droit de l'urbanisme. C'est pas connu. Donc nous, en fait, depuis 6 ans, on travaille donc sur ce sujet-là. Et donc on s'est structuré, on a mis en place une équipe, notamment des juristes, des avocats spécialisés dans l'urbanisme et dans le droit immobilier. Et on a travaillé en main dans la main aussi avec la DDT locale pour pouvoir trouver et identifier des outils actuels, existants, qui font partie des documents d'urbanisme, pour pouvoir commencer à mettre en place, on va dire, dans le cadre légal actuel, des projets réversibles avec des cahiers des charges spécifiques qui viennent se superposer en fait aux règles actuelles. Et au fur et à mesure, on va travailler sur des retours d'expérience pour pouvoir donc faire bouger les lignes, avancer et notamment pouvoir intégrer ces évolutions dans les futures réglementations d'urbanisme.
On prend vraiment les toutes dernières questions, très courtes, les plus courtes possibles.
Oui, bonjour Thierry Loire. C'était juste une petite remarque, parce que quand vous parliez des sociétés immobilières, elles sont effectivement, elles ont beaucoup de capitaux, elles sont essentiellement intéressées par les grands centres commerciaux. Mais dans les centres-villes, je ne crois pas que les propriétaires des locaux commerciaux hors galerie soient la même typologie. Et je pense qu'il faut dire quand même que ces propriétaires sont un peu plus disciplinés. Et le marché dicte, je pense qu'ils le sont un petit peu plus, et le marché dicte forcément cette discipline, parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas d'autre choix que de baisser les loyers tant que, si les locaux ne sont pas loués. Et moi, j'ai remarqué sur Poitiers que depuis 2-3 ans, tous les locaux qui ont été vides ont été recommercialisés à des loyers inférieurs à ce que l'on pouvait avoir il y a 10 ou 15 ans. Mais vous le disiez vous-même, par la force des choses, puisque de toute façon, le chiffre d'affaires généré dans une boutique aujourd'hui n'est pas forcément le même qu'il y a 10 ou 15 ans. Donc forcément, le taux d'effort ne sera pas le même et on est obligé de s'adapter. Et je crois que le propriétaire indépendant est plus discipliné que ces sociétés commerciales.
Une dernière question, puis des réponses courtes et on arrête là.
Bonsoir, Philippe Vergniaud, adjoint au maire au commerce à Angoulême. Juste en aparté, je pense que chaque ville a ses difficultés par rapport aux locaux commerciaux, parce qu'Angoulême, on n'a pas du tout la même. Beaucoup de locaux commerciaux vides sont la propriété de personnes qui sont à la retraite depuis très longtemps, qui ont pour la plupart quitté la ville et qui se foutent royalement de leurs biens immobiliers et qui payent consciencieusement la taxe foncière tous les ans. Et qui sont injoignables, donc, et le loyer est toujours à 1 400 € pour 50 mètres carrés royalement, même dans des endroits très, très, très mal situés, et qui ne changeront pas leur donne. Moi, ma question est en lien, on se pose la question de mettre en place la taxe sur les locaux vides. Moi, je me pose beaucoup de questions sur cette taxe, d'une part pour sa complexité à mettre en place et sur les incidences aussi bien positives que négatives qu'elles peuvent engendrer. Et pour ceux qui en ont déjà l'expérience, est-ce que ça ne donne pas l'image aussi d'une ville qui en arrive à bout de souffle à mettre en place une taxe quand le marché correspond plus, quoi.
Oui, sur la taxe, la fiscalité ne rendra pas les conditions de marché, donc elle n'agit évidemment pas sur les causes du phénomène. Elle est là uniquement pour vous permettre de reprendre contact avec les propriétaires et de discipliner. Limoges a eu une politique plutôt exemplaire en la matière, mais alors c'était pas avec la taxe sur les locaux vacants. C'était sur la question des beaux tout immeubles, donc les propriétaires qui louaient leur immeuble entier à une enseigne et qui, avec ce loyer-là, se fichaient éperdument de ce qui se passait dans les étages. Et voilà. C'est une vieille question. Alors, ils ont commencé dans les années 2000 avec une SEM, mais ce qui est intéressant à Limoges, c'est qu'ils ont vraiment articulé tous les programmes. Alors, il y avait tout ce qui était restauration, insalubrité, l'ANA déjà intervenait, le FISAC. Donc, ils ont couplé tout ce qu'on peut mettre en place comme politique publique sur un centre-ville, et grâce à cela, ils ont pu témoigner de leur volonté auprès des propriétaires et les engager par la concertation dans une démarche un peu plus constructive. Donc cette taxe, si vous l'appliquez toute seule, effectivement, le risque, c'est que d'abord, la vacance augmente encore, parce que les propriétaires qui se fichaient éperdument de leurs biens vont peut-être maîtriser encore moins ce qui va se passer après. Donc il faut l'articuler avec une politique, dans une politique plus générale sur le centre-ville. On revient sur cette question-là. Après, sur le comportement des propriétaires, effectivement, il est relativement hétérogène. Sur les rues numéro 1, les rues les plus demandées, la rue Gambetta, par exemple, ceci dit, est-ce que là, elle est encore rue numéro 1 ? Effectivement. Alors, tendanciellement, c'est pas, en macro, si je prends les enseignes de Procos, on n'y est pas encore. Globalement, les loyers continuent d'augmenter. D'accord.
bien. Écoutez, les interstices permettent aussi les échanges, donc aussi créatifs que la grande réunion. Donc merci à vous et merci aux intervenants d'avoir répondu à notre invitation. Et oui, on peut les applaudir. Merci. Et donc, prochain rendez-vous le vendredi 27 mai et dans le cadre de la foire, donc ça sera dans l'amphithéâtre du Parc des Expos, sur le thème du tourisme dans tous ses états. Voilà.